Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du SAV de la F1 consacrée cette semaine au Grand Prix d'Espagne sur le circuit de Montmeló. Oui, il y a eu un Grand Prix de Formule 1. Ça ne s'est peut-être pas vu, mais il y en a eu un. N'est-ce pas, Timéo? Tu es content?
Oui, évidemment. Je vais faire un faux suspense dans cette émission. Va-t-il chanter l'hymne italien? Quand? Peut-être, on verra.
Nous ne sommes pas seuls, Dino.
Effectivement, nous ne sommes pas seuls. Mm. Nous sommes accompagnés.
Oui,
et qui nous accompagne avec nous,
Mais par qui?
En notre présence. Par quelqu'un qui n'est pas venu l'année dernière, mais qui est venu, je crois, si je me trompe pas, à 3 reprises en 2011. C'est Antoine. Bonsoir, Antoine. Et
bonsoir, re-bienvenue. Antoine.
Bonsoir, Dino. Bonsoir, Chi.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis 1 an et demi?
Oula, beaucoup de choses. Beaucoup de grands prix, d'ailleurs.
Oui, c'est vrai. 2 titres de champion du monde pour Vettel en plus.
Et mon retour sur FNF1.
Eh oui, parce que hier, Antoine était rédacteur. Il est de nouveau rédacteur. Il a toujours un petit peu été dans notre cœur. Mais ça, il ne savait pas.
Il m'a fallu un piratage d'ici FNF1 pour que je me rende compte.
Merci, pirate.
Oui, qui que vous soyez.
Nous rend pas trop souvent service, d'accord.
Alors, messieurs, qu'avez-vous pensé de cette course?
Ah bah, moi, j'ai bien aimé. Non, mais quand on lit les commentaires sur FNF1, à croire que c'était une purge, c'est pas une course extraordinaire. Maintenant, je suis pas d'accord, on a quand même vu des bagarres. Il y a une équipe notamment qui a réussi à se battre, qui a réussi à taper dans les pneus tout en les économisant. Il y a un pilote qui a réussi à faire des manœuvres. Voilà, donc c'est la preuve que vous pouvez quand même ce week-end faire de l'action en piste et que on n'a pas eu un week-end où on a passé tout notre temps à gérer et à économiser et à se laisser dépasser pour rester sur sa stratégie.
Tu remarqueras quand même que Pirelli a quand même dit que là, c'était un peu trop.
Ah bah, 4 arrêts, c'est trop. Ils vont changer les pneus pour le Canada. Alors, j'ai pas compris s'ils allaient changer exactement dans les pneus parce que c'est tombé aujourd'hui et je viens juste de rentrer.
Ils changent un peu tout. Oui, on va changer les matériaux, puis peut-être aussi la structure, et puis ça sera peut-être un mélange des pneus 2011 et 2012, mais aussi un peu de 2013. En gros, en effet, ils n'ont rien dit puisqu'ils ont tout dit. Donc,
c'est bien. Il y aura peut-être la couche supérieure qui sera en 2013, celle du milieu en 2012.
Oui, voilà.
Et peut-être la structure de 2000.
C'est l'archéologie.
Attention, ils vont bientôt nous préparer les pneus 2014. Surprise.
Et d'ailleurs, ils ont encore réclamé des essais pour 2014.
Oui.
Bah, il vaudrait mieux parce qu'avec les pneus là, quand le turbo va s'enclencher, le pneu va déchapper. Ce serait pas très pratique.
Oh, ça serait marrant.
Ah bah, j'imagine, oui, c'est sortie de virage, boum.
Non, mais espérons qu'ils réussiront à s'entendre sur des essais.
Oui.
Espérons qu'ils réussiront à s'entendre, ça serait déjà un miracle.
S'ils n'arrivent pas déjà à s'entendre pour plein d'autres sujets.
Ah bah le bail n'est toujours pas prolongé de toute façon, même si ça a l'air d'être en bonne voie.
Oui.
Bah non, c'est pour le mois prochain, non? Pas au mois de juin? Ils doivent savoir. En tout cas, qu'ils veulent savoir.
Oui, qu'ils voudraient savoir, mais après, est-ce que tonton Bernie sera d'accord?
Bah, je pense sincèrement que pour le moment, si Pirelli a rien annoncé, c'est un peu les seuls qui existent aussi sur le marché, quoi. On n'entend rien du côté de Michelin, on n'entend pas grand-chose du côté de Bridgestone. Le seul candidat, entre guillemets, déclaré, c'est Kumo. Non.
Il y a Hankook.
Non, Hankook. Voilà, mais encore, c'est parce qu'ils étaient déjà candidats et qu'ils disent, bah oui, nous, si jamais il y a la petite, on sera nouveau candidat. Bon, c'est les seuls candidats. Après, je pense qu'il y a une question de négociation qui est derrière, mais pense que Pirelli a plus ou moins la certitude de devoir faire des pneus l'année prochaine. Sinon, il serait beaucoup plus pressant depuis quelques semaines, quand même.
Ah oui,
là, ils le sont beaucoup moins. Ils commencent déjà à dire qu'il faudrait faire moins d'essais et compagnie. Bon,
ils anticipent déjà sur 2014. Ouais. Alors, messieurs, vous le savez, ce dimanche, nous étions le 12 mai.
Ouais.
Et il s'est passé des choses le 12 mai. Il s'en est passé plein.
Malheureusement.
Mais tu vas voir, c'est vachement bien cette semaine.
Ouais.
Je sais pas.
N'aie pas peur, Antoine.
C'est des vieux souvenirs qui remontent.
C'est comme tout, c'est douloureux la première fois, mais après...
Le service après-vente de la F1 vous présente l'éphéméride de Shinji. Une rubrique si drôle qu'elle fait mérite.
Et messieurs, le chiffre de la semaine, c'est 1000.
C'est une distance.
Oh non.
Ce sont 1000 secondes passées dans les stands par l'ensemble des pilotes.
Ça pourrait être ça, mais ça n'est pas ça.
Est-ce qu'il y a une unité derrière?
Ah oui.
Une unité de temps?
Non.
De distance?
De poids.
Donc ce sont 1000 kilos.
Tout à fait.
1000 kilos.
Donc une tonne.
Oui, mais je me suis dit que voilà.
C'est 1000 kilos tout rond ou c'est une
environ
tonne,
voilà,
1000 kilos. Voilà. C'est le poids d'un objet?
Oui.
Ah, ça m'avait demandé si c'est le poids d'une personne.
En même temps.
Attends, méfie-toi.
Est-ce que cela a un rapport avec la Formule 1?
Ma question piège.
Et comme à chaque fois, je dirais peut-être, mais ça serait qu'un pilote tracté. Donc non.
C'est un objet manufacturé?
Oui.
Récent?
Qu'entends-tu par récent?
Bah, d'une époque récente.
Mais non, mais c'est genre du siècle, bah, des 10 dernières années.
Dont nous sommes contemporains.
Non.
Le premier iPhone.
Non.
L'iPhone 25.
Non, c'était pas l'iPhone 25. Ah. Tu auras un écran de 43 pouces.
Il y aura 25 rangées, forcément.
Donc c'est un objet manufacturé, et nous n'en sommes donc pas contemporains.
Est-ce qu'il était utilisé très souvent parmi les gens de l'époque à laquelle il était utilisé?
Alors, l'objet en particulier, non. Par contre, dans sa forme contemporaine, oui.
Ah, sa forme a évolué au cours du temps.
Ah bah oui.
Alors là, le « ah bah oui
». Non mais c'est encore un truc que quand vous saurez, vous direz « ah bah oui quand même
». Est-ce que ça a un rapport avec l'informatique?
Oui.
Est-ce que ce serait un disque dur?
Non, ce n'est pas un disque dur.
Le premier ordinateur.
Oui, je peux accepter la réponse. J'aurais aimé que vous trouviez plus de trucs auparavant. Mais en effet, alors, vous allez voir que ordinateur est un terme, il est pas exact, mais bon, en effet, le 12 mai 1941 était présentée la machine ZUS 3, ou DRAI, puisque c'était en Allemagne, et on va dire, il peut être considéré comme le premier ordinateur au monde, mais il faudrait plutôt l'appeler le premier calculateur automatisé au monde.
D'accord.
Parce que voilà, oui, c'est une grosse calculette, oui, tout à fait. Une tonne, oui, c'est une grosse calculette.
Il fait une tonne, tout ça, pour calculer 3 plus 7 égale 10.
C'est avec les cartes percées, il me semble, à l'époque.
Oui, tout à fait. Donc, le ZUS 3, qui a été créé par Konrad ZUS, donc en 1941, est la première machine programmable pleinement automatique. Mais on peut pas encore dire, certains prétendent que c'est le premier ordinateur, surtout dans le sens anglais, puisque on savait qu'on dit computer, hein, compute le calcul. En français, il faudrait plutôt parler de calculateur. Hein. Et donc il faisait une tonne, hein. Il succède à deux modèles qui s'appelaient, devinez comment ils s'appelaient les deux modèles avant.
Le ZUS Ein et le ZUS Drei.
Bravo!
On va Einstein Drive, j'ai été fan de Schumacher quand même. Bon, je ne sais pas compter jusqu'à 7 en allemand, mais au moins Einstein Drive, ça va.
Donc, premier calculateur, faut savoir qu'il utilisait déjà en 1941 le système binaire. Oui, parce que c'est pas forcément une évidence, hein. Système binaire à virgule flottante. Donc c'était aussi la première machine qu'on pouvait programmer, hein. Même si, toute la mémoire était externe. C'était super pratique.
Attends, la machine fait une tonne à elle seule et la mémoire elle est externe.
Oui, enfin c'est ensemble, c'est tout ensemble. Oui, c'était des cartes.
Ah d'accord.
Hein, ce qui fait en plus,
ça devait paraître un peu
voilà, suspect. Ce qui faisait de Konrad ZUS aussi le premier programmeur d'une machine réelle. Parce qu'il y a déjà eu des gens qu'on considère comme des programmeurs, notamment on cite souvent Ada Lovelace, mais elle en fait, elle est la première personne à avoir fait de la programmation, mais c'était théorique. Il n'y avait pas de machine à l'époque. Oui. Et alors vous savez à quoi elle servait cette machine, le ZUS 3?
Elle était à la caisse du Lidl de Cologne, je crois. Si je ne me trompe pas.
Alors, ils ont voulu faire ça, mais ils se sont dit ça serait vachement mieux de l'utiliser pour faire des analyses statistiques sur les vibrations des ailes.
C'est pas con.
C'est pas con.
Et elle a été inventée quand? En quelle année?
Alors, elle a été présentée en 1941, et elle a été élaborée entre 1937 et 1941.
C'est un truc nazi, ça. C'est un collaborateur, ça.
Yavol.
Et s'il y a vol, il y a des lits, on peut les suivre. Oh, mon Dieu.
En fait, il y a trois choses qui différencient le ZUS 3 d'un ordinateur. Hein. Alors, j'ai les trois trucs. Alors, la première chose qui lui manque... Alors, ne me demandez pas le sens de la phrase. Je vais vous le dire. Et je pense que certaines personnes qui écoutent le podcast vont dire « Ah, bah oui, en effet, moi, personnellement, je ne la comprends pas. »
Je pense qu'Antoine va pouvoir nous éclairer.
Donc, ce qui lui manquait,
je mets la pression sur Antoine.
C'était le saut d'instruction conditionnelle qui permet de traiter complètement les blocs conditionnels si, alors, sinon, et les appels de fonctions.
Alors, Antoine?
Il me semble que c'est quand tu mets par exemple un point virgule à la fin d'une ligne, c'est en gros ça appelle une fonction et je pense que c'est cela la différence, que la machine pouvait gérer une petite commande qui pouvait lui permettre de comprendre qu'il fallait traiter cela d'une façon et pas d'une autre.
Waouh,
c'est beaucoup plus clair.
Je suppose.
Deuxième chose qui lui manquait, c'est sa structure électronique. Car le ZUS 3 n'était pas électronique, il était électromécanique. Donc il n'utilisait pas des... Alors, à l'époque c'était pas des transistors mais des tubes à vide, mais des petits systèmes électriques avec des petites bobines, ce qui devait faire quand même un sacré bruit quand ça fonctionnait. Et alors apparemment pour l'histoire, j'ai deux versions, hein. C'est soit c'est en 1937, c'est l'assistant de Konrad ZUS qui a dit cher Konrad, si on utilisait des tubes à vide pour notre machine, et il aurait dit non, c'est con, t'es un assistant, c'est de la merde. Et l'autre...
Ça lui ressemble bien, Konrad. Voilà. Je me rappelle avoir bouffé avec lui et c'était un peu son...
Voilà. Et l'autre hypothèse, en fait, c'est que c'est Konrad ZUS qui aurait demandé aux autorités allemandes des tubes, hein, des tubes à vide, et c'est eux qui auraient dit non, ça ne sert pas, ça n'est pas utile pour l'effort de guerre, on ne vous en donne pas.
Oui.
Ce qui est aussi possible.
Voilà. Oui.
Et la troisième chose qui manque au Z3 pour être véritablement un ordinateur, c'est son architecture. Alors là encore, on va parler aux spécialistes, hein, puisque les ordinateurs globalement ont une architecture qu'on appelle l'architecture dite von Neumann. En gros, c'est le fait qu'il y ait un processeur avec une unité de traitement, une unité de commande, et surtout qu'il y a une mémoire unique, quelles que soient les informations.
J'ai l'impression que tu as trouvé la question idéale pour ce Grand Prix.
Oui.
Parfaitement à l'image. On écoute, on le comprend rien, mais ça passe.
Oui, mais tu vois, c'est parce que nous, on est nuls en informatique. Mais il y a plein de gens qui s'y connaissent en informatique, qui disent, ah oui, d'accord, il avait pas ce truc-là.
Ouais.
C'est juste que nous, on est des tanches, c'est tout.
Eh ben, prions pour qu'on ait cool l'informaticien qui nous écoute.
Et donc, alors, il faut savoir que cet ordinateur n'a pas été ce calculateur n'a pas été le dernier, hein. Puisqu'ensuite, devinez ce qu'il a fait, il a fait un.
Bug.
Non, il a fait un Z4. Après, voilà. Z3, c'était logique.
Hein. Une voiture, ça?
Aussi. Je sais pas si BMW lui a demandé des droits ou pas. Ça, l'histoire ne le dit pas. Et alors après ça, le Z3, lui, a été détruit, mais il existe une réplique fonctionnelle à Munich dans un musée.
Et peut-on lui demander de faire des calculs?
Bah, techniquement, apparemment, elle est fonctionnelle, donc on peut.
Et seulement pour les statistiques sur les ailes?
Oui, ou plein d'autres calculs. Elle est programmable, donc tu peux changer sa programmation.
Vrai.
Eh oui.
Le mec. Allez les gars, bon, on va changer la programmation de la machine.
On va demander à nos amis hackers sur Facebook.
Voilà. Et alors étonnamment, Conradius n'a pas été piqué ni par les Allemands, ni par les Américains, ni par les Soviétiques après la guerre.
Parce... Ah bon, c'était pas un vrai nazi. Ah,
parce qu'en fait, c'était pas vraiment un scientifique du genre universitaire à faire des écrits et tout ça pour expliquer les découvertes. C'était plutôt un ingénieur lui. Donc il construisait une machine pour répondre à une fonction comme ça. Donc quand il a travaillé sur ces machines-là, en fait, personne ne le connaissait. Sinon, il aurait fini avec Von Braun en train de faire des fusées pour les Américains. Hein.
Oui, il aurait peut-être gagné du temps.
Oui. Et non, finalement, il est resté en Allemagne, il a fondé sa boîte, une boîte qui fabriquait des ordinateurs, et en fait, il a fait ça jusqu'à la fin de sa vie.
Mais est-ce qu'il y a un héritage de sa boîte qu'on connaîtrait aujourd'hui?
Alors en fait, sa boîte a été absorbée dans les années 60 par Siemens. Alors, quelques caractéristiques techniques hein, du ZUS Z3. Sa vitesse de calcul, il faisait une addition en 0,8 secondes et une multiplication en 3 secondes. Sa mémoire pouvait contenir 64 mots d'une longueur de 22 bits. Donc 22 bits, c'est 22 caractères, hein, des 0 et des 1.
Même pas.
Ah oui?
Parce qu'un caractère, c'est codé sur 8 bits.
Ah ouais.
Le mec, il retient même pas des mots de 3 lettres.
Et attention, la machine tournait à une fréquence de 5,3 Hz. Alors, je sais pas si vous vous souvenez qu'on a parlé de la Game Boy, même la Game Boy, c'était des mégahertz. Hein.
Du Game Boy.
Oui, enfin, du casse-couille électrique.
Il faut penser que maintenant, les ordinateurs tournent au minimum à 2 GHz,
voilà.
Quasiment.
Et alors, j'ai même les flops, hein, parce que c'est un super calculateur, compte en flops. Hein. Et sa puissance était de 20 flops. Alors, flops, c'est le... C'est un acronyme, c'est opération à virgule flottante par seconde.
Ça veut dire que maintenant, les records, ça commence à arriver vers 10 pétaflops.
Alors, je les ai, voilà. Donc, en 2012, pour les ordinateurs personnels, hein, donc ce qu'on a, on fait couramment chez nous, apparemment, ça peut tourner à 100 gigaflops pour un microprocesseur et 2460 gigaflops pour un processeur graphique. Et pour les super ordinateurs, hein, le plus puissant super ordinateur au monde s'appelle le Titan. Ça, c'est du nom de super ordinateur quand même.
Ouais, laisse pas deviner, ça c'est américain.
Ouais. Il a battu le Sequoia. oui, le deuxième s'appelle le Sequoia. Mais c'est un gros arbre, le Sequoia, c'est aussi pour ça. Hein. Donc le Titan, c'est un super ordinateur qui tourne à 17,59 pétaflops. Et un pétaflop, c'est 10 puissance 15. Donc vous rajoutez 15 zéros derrière. Donc ça tourne à peu près à 17 millions de milliards de flops.
Là pour le coup, tu vois, pour prendre conscience, j'aurais peut-être eu besoin de la machine de Conrad 12.
Ah bah oui, ça te parle plus là déjà. Hein.
Tout d'un coup, les pneus Pirelli me semblent d'une limpidité.
Ah bah tu vois, hein.
Tu fais un tour, ça t'échappe, c'est bon, c'est simple.
Est-ce que t'as le temps de finir le tour avant de t'échapper?
Ça dépend du modèle.
Voilà, c'est pour ça que je fais un calculateur.
Et alors, en F1, le 12 mai, eh bien, il y a eu plusieurs dates importantes. On peut remonter au 12 mai 1968, c'était le Grand Prix d'Espagne, le deuxième Grand Prix de la saison. Une victoire de Graham Hill sur Lotus. Sur le coup, rien d'extraordinaire. Sauf que ce week-end-là, c'était la première de la Lotus sponsorisée. La fameuse Lotus Gold League. Donc, c'est le week-end de sa première apparition et aussi, rouge et or, et aussi, de la première victoire d'une voiture sponsorisée. Autre 12 mai important, cette fois-ci, c'était un jeudi, parce qu'on était à Monaco, c'était en 1994. Donc c'était le jour des essais, et c'était pour rappeler quand même l'énorme accident qu'avait eu Carl Wellinger. qui avait quand
même, voilà,
en plus dans un contexte extrêmement lourd, énorme accident, il a passé 19 jours dans le coma. Il a survécu, hein, d'ailleurs, il a repris le volant plus tard, mais sans succès, voilà. Autant avant, Wendlinger était sans doute un espoir de la Formule 1, et cet accident a vraiment cassé sa carrière en Formule 1. Même s'il a continué à rouler, hein, dans d'autres disciplines, l'an dernier, en 2012, il était encore en GT Open.
Mais il a pas fait de l'endurance?
Oui, il a fait de l'endurance, c'est Le Mans.
Avant ou après son accident? Après?
Après, oui. Peut-être avant, mais je sais qu'après, oui, il en a fait.
Ouais, je pense qu'il faisait à partir avec Franzen et Schumacher.
Et il était chez Sauber.
De l'équipe
après,
Mercedes,
il était chez Sauber,
voilà, donc, Sauber. Ouais.
Et enfin, le 12 mai, nous étions en 2002. C'était déjà deux Ferrari sur le podium. Et nous étions sur le A1 Ring. Souvenez-vous, ce Grand Prix d'Autriche 2002.
Ah, merde. Oui. Moi, j'étais nostalgique du circuit et voilà. Ça me rappelle un mauvais souvenir. Enfin, un bon souvenir.
Ouais, je suis plus sûr de ce que c'est. J'ai une petite idée.
Bah écoute,
c'est le manège de Barrichello pour laisser passer Schumacher à 2 mètres avant l'arrivée, c'est ça?
Alors... Moi, j'ai une autre version. Je crois qu'en fait, c'est Barrichello qui a eu un problème technique. Alors, loin de moi, l'envie de chercher des excuses.
En fait, il avait un problème technique dans sa radio qui lui disait « Laisse-lui passer Schumacher ou on te vire ». C'était un peu
non,
ça,
c'était
problème
un problème technique.
Alors,
c'était lié à la radio. En fait, c'est la radio qui provoquait des ratés dans le moteur. Et en fait, du coup, à l'accélération, il était moins bien. Et à l'époque, il avait déjà les prototypes des pneus Pirelli, ce qui fait qu'il s'était dégradé.
Et la pédale de frein cassée.
Et donc, il a dû laisser la
c'est
place à Schumacher.
C'est une honte ce que tu fais, Dino.
Mais non, je vous donne la vérité. Il est temps. 11 ans après, il est temps que les gens sachent la vérité. C'était pas intentionnel. C'était une conjonction de coordination.
fois suivante où Schumacher a voulu passer Barrichello, c'était très simple. Ce n'était plus tu es viré. C'est laisse-moi passer ou tu connaîtras le mur.
Il y a aussi une fois où il a dit allez, je te laisse passer. Et puis, ah merde, attends, j'ai perdu. C'était Indianapolis, je crois, ou en
2004.
Il freine pour essayer de faire ex-aequo. Sauf que, bah non, il a pas fait ex-aequo. L'autre, il a fait 2 millièmes de seconde devant.
Ouais. Ah, mince. 2004.
2000, c'est le problème avec les
oui, 2004.
Oui. Ils n'ont pas failli se rentrer dedans en 2005. Wow. J'ai le souvenir, en 2005, ils sont que 6. Et il y a un moment où il y a deux voitures qui manquent ils sont que 6, hein, de se rentrer dedans.
Oui, ils manquent parce que c'est ça l'arrivée.
Donc voilà, c'était tout pour l'éphéméride cette semaine.
C'était un bien bel éphéméride. Adapté au circuit et à notre invité. Moi, je dis Shinji.
Et pas beaucoup d'actu cette semaine. Tu sais, je suis toujours tributaire des choses qui se passent. Essayez d'inventer des trucs les jours où il y a des Grands Prix de F1, s'il vous plaît.
Bon, ça va, là, c'est pas mal de trucs qui ont été inventés dans le domaine technologique, c'est bien.
Oui, mais saison, c'est de varier, voilà, merde, encore un truc technologique. Dino, on va passer à l'heure de gloire de l'invité.
Il est venu tellement bon, est-ce qu'il mérite vraiment une heure de gloire? Il l'a déjà fait, son heure de gloire, il a même
pourquoi
fait
seulement
heures,
une
6, 12 heures de gloire. Ce garçon a connu l'époque où on faisait des enregistrements qui duraient 3h30, 4h. Mais oui, tu vas avoir ton heure de gloire, sur toi. Enfin, peut-être. Enfin, t'auras pas une heure. On va une petite demi-heure.
Non,
on va
en fait, une petite dizaine de minutes.
D'accord. Mais vraiment, en visant large.
Le service après-vente de la F1 vous présente l'heure de gloire de l'invité.
Alors Antoine, tu connais le principe, hein, l'heure de gloire. On va s'intéresser à toi. On va essayer de savoir ce que tu penses de la Formule 1. Et ça commence par le pour
et le contre.
Non.
C'est pas ça. Pourtant, c'est clair comme règle. C'est le pour, pas pour. Autrement dit, je vais te faire 10 propositions sur la F1 du moment, et à chaque fois, tu me diras si tu es pour ou si tu es pas pour. T'as pas le droit de dire contre. Tu dis contre, t'as un gage qu'on annule automatiquement, mais t'as quand même un gage. Ça reste ancré dans les archives SAV. Ça jettera l'opprobre sur toi et sur cette génération.
Je ne peux pas me le permettre.
Ouais, voilà. Donc, tu devras dire pas pour. À la fin de cette proposition, tu pourras revenir sur 3 sujets de ton choix. Enfin, 4, parce qu'il y a quand même un sujet qui va être récurrent. Et que j'ai oublié de mettre. Ah là là, mince, j'ai oublié de mettre question. Bon, exceptionnellement, il y en aura 11. Alors, quand tu es prêt, tu me dis je suis prêt. Et on
Dino,
y va.
Je suis prêt.
Alors, pour ou pas pour le retour de Flavio Briatore en Formule 1?
Pas pour.
Pour ou pas pour le départ de James Allison, directeur technique de l'écurie Lotus?
Pour.
Pour ou pas pour la publication des salaires des pilotes?
Pas pour.
Pour ou pas pour des essais privés dès janvier en 2014?
Pour.
Pour ou pas pour le retour de Robert Kubica?
Pas pour.
Pour ou pas pour participer à un lâcher taureau dans les rues de Monaco?
Pour.
Pour ou pas pour que Sissy Wolff participe aux essais jeunes pilotes avec Williams?
Pour.
Pour ou pas pour le permis à points en Formule 1 à partir de 2014?
Pas pour.
Bah, c'est bien, comme certains pilotes. Pour ou pas pour que la 11e écurie du championnat ne touche pas d'argent sur les revenus de la Formule 1?
Pas pour.
Et enfin, mais pas enfin, parce que c'est pas la dernière question, pour ou pas pour le Grand Prix de Thaïlande?
Pas pour.
Et enfin, c'est la dernière question, pour ou pas pour la Formule 1 sur Canal+?
Pas pour.
Et donc tout ça, ça nous fait 2, 4, 6, 7 pas pour 4 pour. Et une connerie, là, normalement on devrait avoir 10.
Ça va pas
falloir une machine à calculer.
Mais t'as dit qu'il y en avait 11.
Bah oui, je sais, mais...
Tu dis qu'il doit y en avoir 11 et tu t'étonnes que 7 plus 4, ça fait 11.
Mais non, mais c'est pour la... Oh, vous êtes nuls. On peut même plus faire blague, c'est nul, cette émission. Bon, d'accord, elle était pourrie, ma blague, mais quand même. Il y avait un jeu de
tu sais que je derrière, suis vexé, tu sais que je suis très vexé de deux émissions sur les blagues pas drôles, hein. Tu le sais, en plus.
Oui, d'ailleurs.
Alors, pourquoi j'ai été invité?
Je t'aurai un jour. La Belgique va souffrir. Alors, Antoine, tu as la petite de... Alors, d'abord, on va revenir sur la dernière, sur la F1 sur Canal+, tu es pas pour?
Bon, on va dire qu'il y a beaucoup d'avantages à la diffusion sur Canal+, c'est vrai. Mais faut aussi penser qu'il y a beaucoup de gens qui sont fans de F1 et quand c'est en ces moments de crise, c'est pas forcément évident de regarder la F1 sur Canal+. Certes, il y a beaucoup d'avantages, c'est beaucoup plus technique à certains moments, on n'a pas les fameuses putes de TF1.
Ouais, même si, j'aimerais dire, j'en ai rien à carrer aussi de la bande-annonce d'Homeland entre la fin de la course et le podium. Merci.
On est d'accord.
Mais non, mais bon, c'est une bande-annonce. Ah, c'est bon. Oh, Shinji, oh, c'est bon. En plus, Homeland, c'est super bien.
Donc ouais, il y a beaucoup d'avantages à Canal+, mais il y en a aussi contre, forcément. Par contre, le plus qu'il y a pour eux, c'est vrai qu'il y a les émissions autour, surtout le mercredi soir.
Ouais.
Mais d'un côté, ça prive quand même beaucoup de gens.
Mais toi, justement, tu es abonné Canal+, tu regardes par d'autres moyens?
Je regarde par d'autres
moyens. D'accord. Devinez.
Je ne répondrai plus au détail de cette question.
Surprise. Alors justement, j'en profite parce qu'on n'a pas eu l'occasion d'en parler. Ils ont introduit, crois que c'est à Bahreïn, ils ont introduit le fameux grand résumé de la course, le grand film, et qui en fait est un résumé d'une grosseur de toute la course, avec intercalé les interviews des pilotes et compagnie, qui vous permet en fait au fur et à mesure du déroulement de la course d'avoir des explications sur la manœuvre, sur la stratégie employée par un pilote ou ce genre de choses. C'est un moyen de voir la course qui est, je trouve, plutôt intéressant et une assez bonne idée de la part de Canal+, si tant est que ce soit une idée qui vienne vraiment de Canal+. Ça se trouve, Sky Sports, après, c'est pareil.
Bah, il me semble que Sky Sports ne le fait pas. Ils font des analyses sur la course, mais je crois pas qu'ils font un film de la course comme ça.
Donc c'est sur Canal+ Sport, bah,
juste après
soir, les spécialités. Voilà. Alors ensuite, sur les 10 autres sujets, tu peux revenir sur 3 sujets de ton choix, Antoine. Lesquels?
Il y aura le permis à points, tout d'abord.
T'es pas pour?
Non, je suis pas pour du tout, pour ne pas dire le mot interdit.
Donc tu es contre?
Non. Dis-le, tu as un gars.
Non, mais moi j'ai le droit de le dire.
Non, mais pour le permis à points, on va dire que ça peut aider à calmer certains. Mais par exemple, il y a des petites fautes qui vont être imputées au pilote. Par exemple, je pense la faute de Sauber qui relâche Hülkenberg sur Vergne. Je pense que ça pourrait être imputé au pilote et lui faire perdre des points. Comme est-ce qu'on peut juger que deux excès de vitesse dans les stands, c'est aussi grave que de provoquer une collision? Ça va être ça le problème du permis.
C'est tout le côté effectivement un peu même à la base, de toute façon, du permis à points, le concept permis à points, déjà à la base, c'est te donner un quota d'erreur.
Alors, c'est surtout qu'en fait, on pourra juger selon les circonstances. Ce sera totalement arbitraire.
Non, parce que c'est vrai que ça établit une grille des valeurs des sanctions vraiment arbitraire, comme tu disais. Pourquoi
deux
sanctions qui sont très différentes valent autant de points? Pourquoi l'une va forcément, en effet, valoir plus de points qu'une autre, alors que, comme tu l'as dit, on va un peu enlever le côté circonstanciel? Ouais, c'est...
Mais après, c'est-à-dire que c'est surtout le concept derrière, c'est surtout de ne pas pénaliser directement les pilotes en leur mettant des pénalités sur la grille, des pénalités qui sont généralement décriées un peu par pas mal de fans, quoi. On en a eu sur Fan F1 qui critiquaient ce type de pénalité. Mais c'est toujours un peu le même problème avec ce système du permis à points, c'est qu'on te donne un quota d'erreurs. Alors si c'est des erreurs type excès de vitesse, moi ça me dérange pas. Par contre, si effectivement c'est de l'accident, c'est qu'on t'autorise à avoir des accidents. Tu vas perdre des points, mais tu seras pas directement sanctionné. Ça veut dire que, par exemple, par un moment donné dans la saison, un pilote pourra très bien se dire, bah, moi, à la limite, là, je vais le foutre dehors, voilà, j'ai rien à perdre, je vais perdre 3 points, bah, je vais perdre 3 points, il m'en reste 6 sur mon permis à points. Donc, je risque rien. Donc,
ça aurait pu servir à Schumacher en 1997.
Oui, voilà, non, mais c'est ça qui est un peu gênant. Si c'est une application du permis à points type, ce qui se fait dans le vrai permis de la route, avec des infractions qui sont des infractions où on pénalise les pilotes, notamment par des amendes financières, là, c'est pas gênant. Maintenant, est-ce que derrière, ça qu'au bout des 12 points que tu as perdu, tu te fasses bannir pour un grand prix, je suis pas sûr. Si l'idée derrière, c'est aussi d'inclure tout ce qui est accident, accrochage, là je dis attention, c'est aussi autoriser des accrochages, c'est autoriser les mecs à se foutre dehors. Et là je suis moins partisan.
Et puis est-ce que ça sera rendu public ou pas, ces choses-là? Est-ce que tout le monde pourra savoir combien de points à ses pilotes préférés, des choses comme ça? On sait pas.
Mais je pense qu'après un an, on aura une idée de l'échelle des sanctions. Et après, il y aura sûrement des sites comme FanF1, bien entendu,
qui feront des comptes
des points perdus.
Mais le pire, c'est que c'est déjà un concept qui existe déjà. Enfin, t'as déjà la pénalité imposée au bout de 3 avertissements. Le 3e avertissement est directement sanctionné d'une pénalité, je crois que c'est de 5 ou 10 places sur la grille de départ. Voilà, donc moi je reste quand même très dubitatif sur ce type de système qui existe déjà en partie et qui aura ses défauts, qui sera encore cliqué et qu'on va changer dans 4 ou 5 ans. Alors ensuite, Antoine, un autre tour papou sur lequel tu voudrais revenir?
Donc le retour de James Allison?
Non, le départ de James Allison, pardon.
Ah, ben ça sera peut-être un retour chez Ferrari.
Bah, ah, on en parle.
Alors toi, tu es
oui,
pour.
On en parle beaucoup, oui. Ah oui, je suis pour son départ, en fait, parce que il y a quelques semaines, c'est justement Eric Boullier qui parlait de la hiérarchie instaurée chez Lotus. Donc ils vont pas chercher à faire la guerre des salaires ou à recruter des autres ingénieurs. C'est vraiment... Enfin, on a le directeur technique, numéro 2 qui va prendre sa place en cas de départ. Et ça peut permettre d'intégrer des nouveaux jeunes, pourquoi pas des nouvelles idées à différents échelons. Et peut-être que l'année prochaine, ça pourrait faire la différence, au lieu de se reposer sur un seul homme. D'ailleurs, on a même un pilote comme Kimi Räikkönen qui a dit clairement que ça n'affecterait pas vraiment la vie de l'entreprise.
Ouais, il a plutôt dit qu'il savait pas dans quelle mesure ça allait affecter et que par contre, ça n'affecterait pas sa décision.
Bah lui, il verra, limite, surtout, que donne l'évolution de la future voiture, quoi. Quelle que soit la personne qui la développe, hein.
Automatiquement, ça va influer, quoi. Dire que ça crée une incertitude quand même dans le développement de la voiture et ça crée une nouvelle orientation. Forcément, ça va le forcer aussi à regarder de plus près ce qui se fait, tout simplement parce que, voilà, c'est plus James Allison qui s'en occupe.
Bah le problème, c'est qu'après, je pense que James Allison a déjà tracé la ligne directrice pour la E21. Parce que ça m'étonnerait vraiment que Lotus continue à développer sa voiture après août. Parce que je pense que l'apport de Byrne en tant que sponsor pourra permettre de développer déjà jusqu'à août. Mais après, ça m'étonnerait que ça continue longtemps. Donc les évolutions, enfin la ligne d'évolution pour la E21 doit être déjà bien tracée. Et après, le successeur de James Allison devra vraiment travailler sur la E22, hein, oui. Si elle s'appelle comme ça.
Alors ensuite, un troisième sujet. Alors je te cite la suite. Les essais privés dès janvier en 2014, le retour de Robert Kubica, participer à l'Assetoro dans les rues de Monaco, que Suzy Wolff participe aux essais jeunes pilotes avec Williams, que la 11e écurie du championnat ne touche pas d'argent sur les revenus de la F1, ou le Grand Prix de Thaïlande.
Le lâcher de Toro dans les rues de Monaco.
Sur ça. Sérieux. Mais,
bah, en fait, je l'ai vu surtout d'une manière métaphorique. Je pensais au lâcher du Toro rouge de Red Bull et Toro Rosso, et de la tentative de domptage de notre cher ami espagnol, j'ai nommé Fernando Alonso.
Rappelons que Red Bull n'aura pas des pneus Red Bull à Monaco, il faudra attendre le Canada pour qu'ils aient les pneus Red Bull.
C'est des pneus
on
Red Bull.
On sent le fervent supporter de
Red Bull.
Non mais c'est ce qu'a dit Paul Emery, il a prévenu les équipes, il a dit on vous prévient, si on change, ça va avantager Red Bull. Donc voilà, Paul Emery lui-même le dit, donc voilà, s'il change les pneus, ça va être des pneus Red Bull, voilà.
Et mais du coup, si c'est des pneus qui sont tout simplement plus durs, tu me dis que la Scuderia n'arrivera pas à les faire durer encore plus longtemps.
Ouais, ou alors ils ont du mal à les faire chauffer en température. Enfin, après, ça dépend jusqu'à quel point ils sont.
Bon, ce qui est bien, c'est qu'on sait que Mercedes n'aura jamais ce problème.
Mercedes, ils perdront peut-être moins de place. Mais c'est ça le pire, c'est qu'aujourd'hui, fondamentalement, on sait même pas vers quoi ils se dirigent et donc d'où quelle va vraiment être l'influence de ces nouveaux pneus. Est-ce que c'est vraiment des pneus qui sont toujours dans les philosophies actuelles mais plus durs, ou est-ce que ce sont vraiment de total nouveaux pneus? Ça va changer complètement la donne. On sait pas d'où. Rien ne garantit que les courses vont être intéressantes à partir du Grand Prix du Canada, parce que ce sera des nouveaux pneus que personne n'aura jamais roulé avec, que Pirelli n'aura jamais fait rouler. Donc, quelle est la garantie que les pneus, même si c'est des inspirations de 2011 et 2012, rien ne garantit que ça va s'adapter sur les pneus de cette année.
Bah, ça risque de réitérer ce qui s'est passé donc fin 2011 et fin 2012. Ça va être des courses à deux arrêts, comme ce qui s'est passé la course des US l'année dernière.
Oui. Donc sinon, t'as pas envie de revenir sur un sujet plus sérieux?
Peut-être sur le retour de Flavio Briatore.
L'innocent.
L'innocent, tant qu'on n'a pas prouvé son innocence. On va dire que c'est... Flavio Briatore, il pourrait revenir. Mais déjà, j'ai un gros doute sur la possibilité de tendre l'écurie dans une des écuries de ces poulains. Donc, on sait pas où va aller Mark Webber l'année prochaine, même si moi, je le vois doucement se diriger vers Ferrari.
À toi, tu penses qu'il va continuer?
Oh, bah, je pense qu'il sera pas contre un gros salaire.
Mais un gros salaire chez Porsche, cela, ça peut être tentant.
Certes, mais est-ce que il va vouloir réitérer son parcours en endurance, sachant qu'à chaque fois qu'il a été en endurance, il avait répété son envol à Valence sur la Ikovalainen, quoi. À chaque fois, il s'est retourné.
Ça sera un moyen de retomber sur ses pattes à nouveau.
Mais pour Flavio Briatore, déjà, il faudrait vraiment voir où est-ce qu'il pourrait retomber. Et après, je pense qu'il serait énormément surveillé toutes les communications radio, sur toutes les décisions qu'il prendrait. Même si Ross Medley a donné sa petite astuce pour donner des stratégies de course particulières à Massa sans que ça soit diffusé. Mais je pense que Flavio Briatore serait extrêmement surveillé, ça pourrait nuire à tout son environnement.
Moi, je pense pas qu'il pourrait revenir, en tout cas en tant que directeur d'écurie, parce que c'est l'ancienne génération. C'est Briatore, ça reste quand même l'époque des Denis, des Todd, et toutes ces personnes-là ne sont plus en F1. Toutes ces équipes-là ont changé d'époque en changeant de team manager. Donc, je sais pas, moi je le vois mal revenir.
Mais surtout qu'on est parti de l'opulence en tant que des caissiers privés au niveau financier à vraiment là des restrictions drastiques. Et est-ce que Flavio Briatore voudra revenir à une époque qui va sûrement être guidée par la performance et la fiabilité, plus la consommation des moteurs. Donc pas totalement en fonction de son équipe à lui. J'ai des doutes à penser que Flavio Briatore va retourner dans une situation où il contrôlera pas tout. Ce qu'on l'a vu quand Nelson Piquet a révélé l'histoire, Flavio Briatore s'en est pas trop bien sorti.
Mais après c'est pareil, enfin même chez Renault, il contrôlait mais il contrôlait pas non plus.
Hein. Il contrôlait assez ses pilotes pour leur demander de se mettre dans le mur quand
même. Oui, non mais là c'est contrôler les pilotes, mais je pense que sincèrement, peu importe l'ère de la Formule 1 dans laquelle il trouve, je pense sincèrement que un directeur d'écurie aura autant d'influence sur son équipe et sur ses pilotes et sur sa structure en 2014, il y en avait en 2006 ou en 2010. Voilà, peu importe finalement le matériel qu'ils ont entre leurs mains, un patron d'écurie aura toujours son influence, positive ou négative.
Non, mais je pense qu'il pourrait avoir, enfin, un patron d'écurie n'a pas tout le temps la même influence. Si on regarde, par exemple, on va prendre l'équipe Marussia, le directeur d'écurie va forcément avoir une plus grosse importance et donné qu'il a, il a peut-être 100 personnes sous ses ordres.
Oui, non, mais là, c'est tu compares des équipes différentes avec des moyens différents. Mais s'il revient dans une équipe, admettons, on va partir sur Ferrari par exemple. S'il revient sur Ferrari, il y a aucune raison de penser que à cause de la réglementation 2014, il aura moins le contrôle sur les choses que ce qu'il pouvait avoir, avec Renault. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas une question de réglementation. C'est une question de, effectivement, de taille d'équipe, d'ambition de l'équipe. Après la réglementation, peu importe la réglementation, si t'es chez Marussia, t'auras toujours des pouvoirs limités par rapport à un mec chez Ferrari ou chez Renault.
Après, faut voir, est-ce qu'il en aura vraiment envie?
Je crois qu'il a dit qu'il avait pas envie de revenir. Après, peut-être qu'il nous fait réserver une surprise. C'est peut-être le futur Bernie. Quand Bernie sera en prison.
Tiens, non.
Tu veux pas que Bernie est en prison?
Ah non, mais je veux juste qu'un des deux, en fait.
Ah, Bernie va en prison et Briatore le rejoint après?
Ça dépend, tu leur donnes une chambre d'eau.
Oui, il pourrait s'amuser. Il tape un carton avec Fernando Alonso. Bah, Fernando Alonso va faire de la prison. Il aurait agressé un journaliste, un photographe, Ken. Moi, je sais pas, moi, ça mérite au moins la peine de mort.
Et puis, attention, selon la FIA, prendre un drapeau dans sa voiture est illégal. N'oublions pas.
Oui. Et c'est-à-dire qu'en fait, c'est même pas un drapeau, en fait. C'est, donner un objet au pilote, avoir un objet qui lui a été donné, il n'a pas le droit. Bon, après, j'imagine bien le commissaire qui va débarquer des enfants dans l'Alonso, tête qualifiée.
On se rappellera d'un pilote il y a quelques années qui avait eu le portable d'un de ses mécaniciens qui était tombé dans la voiture et qui n'avait pas arrêté de sonner.
Bah, il me semble que c'était ça. Qui était rentré et qui l'avait jeté, tout simplement, et le truc était mort, mais c'était pas grave, sur les frais de l'équipe.
On a toujours dit conduire ou téléphoner.
Il a choisi, il a piloté. Résultat, un bras en moins. Et c'est présent.
Et ouais, ça va toujours un pour téléphoner.
Oui, c'est vrai. Avec les smartphones, maintenant, ça va tout seul. Faut pas que l'écran soit trop grand, par contre, parce qu'après, ça devient galère. Alors ensuite, quelle est l'actu ces dernières semaines dont tu n'as rien eu à foutre?
Oula, il y en a tellement.
Si tu devais retenir la pire.
La pire actu, c'est peut-être l'avis de Sébastien Loeb sur la courbe de progression de Robert Kubica.
T'en as rien eu à foutre de ça?
Non, parce que je vois pas comment... même si c'est un grand pilote, c'est certain, mais je vois pas comment il peut juger Robert Kubica sur ce qu'il a fait pour l'instant, et surtout étant donné que Robert Kubica n'a fait qu'une manche qui était aussi en WRC.
En ERC.
Vu que Kubica est en... Oui, mais c'était le parcours du WRC, c'est ça que je voulais dire. Il a fait le rallye du Portugal, donc c'est le seul rallye qu'il a fait qui est au programme du WRC. On peut pas vraiment analyser la performance d'un pilote sur une course, donc c'est pour ça.
Et donc ensuite, quelle actualité en dehors des Grands Prix, donc en dehors des résultats ou etc. Aimerais-tu lire dans les prochaines semaines?
Donc en dehors des résultats, ouais. J'aimerais bien le retour d'un ou deux motoristes, quelconque qu'ils soient, pour donner un peu plus de concurrence.
Peu importe, t'as pas de favori.
Non. Pas spécialement tant qu'ils ont vraiment la possibilité d'être compétitifs, pas comme Cosworth, parce que c'est juste un massacre. Et au niveau du couple qu'ils sont capables de fournir, c'est n'importe quoi, c'est une consommation excessive. Et le poids du moteur a pas l'air d'être simple à gérer. Donc, c'est vraiment un motoriste qui fera les choses bien.
Alors au contraire, quelle activité toujours en dehors des Grands Prix n'aimerais-tu pas lire dans les prochaines semaines?
Ce serait la faillite d'une des deux petites équipes, donc KTM Marussia, à cause du problème sur lequel la 11e équipe ne sera pas rémunérée cette année.
Ouais.
Pour faire un lien par rapport à tout à l'heure.
Il est malin ce garçon. Et enfin, est-ce qu'il y a un drive ou
Les pneus Pirelli, bien entendu.
On n'a pas un autre, on en a déjà parlé des pneus Pirelli.
Ça dépend, l'homme à la sucette de chez Sauber peut-être.
Qu'est-ce qu'ils ont fait chez Sauber ce week-end?
Ils ont relâché
le Kenberg.
Ah oui, 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 ça n'a plus la course en l'air de Vergne, c'est ça?
Non, sinon il n'y a pas vraiment de drive through.
Et toi, Shinji?
Bien, moi, mon drive through, il va se présenter comme une question. Hein. Qu'avez-vous pensé de la nouvelle livrée Mercedes?
Il y avait une nouvelle livrée?
Eh ben oui, il y avait une nouvelle livrée.
Il y avait une nouvelle livrée.
Ah, c'était ça qui était un peu plus clair.
C'est-à-dire que... Alors toi, t'as réussi à voir quelque chose.
Bah oui, elle est un peu plus claire. Elle est un peu plus
brillante. Ouais, le soleil dans le dos.
C'est pas non plus... Parce qu'il faut rappeler qu'ils ont dit, oui, vous allez voir, en Espagne, on a essayé de changer la livrée, on veut que ça soit plus flèche d'argent. Alors tout de suite, quand Mercedes dit ça, on se dit, ils vont mettre du chrome sur la voiture ou un truc comme ça.
Mais chrome, c'est pas argent. Chrome, c'est McLaren, ouais. C'est pas argent.
Ouais, ouais, mais bon, c'est... Voilà, ça ferait plus métallique et tout ça. Et c'est vrai que le changement, finalement, il a pas été extraordinaire, hein.
Bah, voit quand même le côté flèche d'argent, étant donné qu'au bout de quelques mètres, elles se sont effondrées.
Oui, non, il y a un truc. Enfin, il y a aussi... Le truc qui était peut-être le plus visible, c'était sur le capot moteur. C'est-à-dire qu'avant, il y avait marqué juste Mercedes AMG ou Mercedes-Benz. Et là, ils ont mis le logo à l'étoile.
Oui.
Là, tu peux plus le rater. Il y a une énorme cible... sur le côté des voitures maintenant.
Il manque plus que Lewis percute Rosberg à cet endroit-là et on a vraiment une flèche d'argent.
Donc voilà, c'était. C'est vrai que le changement n'a pas non plus été incroyable sur la voiture.
Non.
Bon, c'est cocasse parce qu'ils l'ont annoncé à la limite, ils auraient rien dit. C'est comme une lettre à la poste.
Mais c'est toujours un peu pareil aussi, c'est-à-dire qu'ils annoncent qu'ils vont changer la livrée et automatiquement nous derrière, on s'attend à un vrai changement. Mais ils ont changé la livrée. Il y a le logo Mercedes qui est là, la livrée est un peu plus argentée, un peu brillante. Maintenant, voilà, on s'attendait à quoi d'autre? Le chrome, c'est pas envisageable. C'est pas de l'argent, le chrome. Ça a jamais été dans la couleur de Mercedes que mettre du chrome. Ça, c'est une idée de McLaren. Et puis, un changement de livrée en dehors de ça pour faire plus flèche d'argent, à part la rendre plus brillante.
Oui.
Pas grand chose à faire, quoi. Donc, je pense que c'est typiquement le genre d'annonce qui est anodine, mais qui suscite beaucoup d'attentes.
Oui, et voilà.
Forcément, déception à
l'arrivée. Ça fait pchit, quoi.
Mais en fait, vous avez pas compris, c'est juste pour cacher que les pneus allaient fondre.
Oui, non, c'est vrai.
Oui, sans doute, oui.
C'est brillant comme stratégie, on n'a rien vu ce week-end. On les a même pas vu prendre le départ.
C'est ça le truc, c'est pas les carrosseries qui sont brillantes, c'est les stratégies.
Bon, même la stratégie, je crois que le son chez Mercedes, ça peut pas faire grand chose en ce moment. Et sinon, moi, en drive-through, ce serait un drive-through pour la réalisation. Parce que je pense que la réalisation contribue un peu à rendre la course parfois incompréhensible, notamment alors moi je me rappelle à un moment donné où j'ai complètement décroché de la course, où en 30 secondes on avait deux images d'arrêt qui changeaient pas grand chose. Enfin, il y avait un arrêt de Lewis Hamilton qui était au-delà de la 10e place. Je pense pas que c'était non plus quelque chose d'extrêmement important de nous montrer cet arrêt-là. Donc voilà, vu que les courses sont effectivement brouillonnes dans la réalisation, il faudrait peut-être qu'ils essaient de faire un peu plus attention à nous mettre des extraits contre ces dommage, moins voir.
En même
Mercedes.
Temps, c'est pas nouveau.
Oui, mais là, sincèrement, c'est criant. C'est-à-dire que, il y avait des moments donnés où je me suis dit, putain, mais il y a un semblant de bagarre qui décide, et eux, ils nous montrent Hamilton dans les stands, quoi. Alors qu'Hamilton, il est 10e, on le voit pas depuis le début de la course. Vous nous montrez justement au moment où il rentre dans les stands. Bah, forcément, derrière, on a l'impression qu'il y a que des arrêts, parce qu'on ne nous montre que des arrêts. Faudrait peut-être que la FIA se mette à dire, bon, maintenant, on limite plafonne à 10% d'arrêts en course, et le reste, on montre des images de course. Même si ce sont juste des voitures qui font des tours et voilà. Des écarts qui se rapprochent, mais au moins c'est bête que je veux dire, mais qu'ils essayent de remettre un peu un scénario sur la course. La course est difficile à comprendre, qu'ils essayent de scénariser un peu la course en évitant de nous perturber avec des trucs qui sont pas forcément toujours très vils. Donc voilà, c'est tout pour l'heure de gloire de l'invité et pour nos drive-through.
On va passer aux qualifs. Et qu'est-ce qu'elles sont utiles, les qualifs, cette année quand même, hein?
Une victoire depuis la pole.
Mm-hmm.
Et encore grâce à des stratégies d'équipe douteuses.
Non, justement, pas de stratégie d'équipe, monsieur. C'est stratégie de Sébastien Vettel.
Oui, donc d'équipe de Red Bull.
Et cette semaine, nos deux guignols, eh bien c'est bien parce qu'ils sont dans la même équipe. C'est les pilotes Williams, Valtteri Bottas, devant Pastor Maldonado. À noter que pour une fois, Guido van der Garde a été devant son coéquipier et même devant les Marussia.
Merci l'aileron avant qui était totalement foireux sur la monoplace de Charles Pitt.
Sinon, en Q2, on a les deux pilotes Sauber qui font 15 et 16, Hülkenberg devant Gutiérrez, Jenson Button, 14e place, Adrian Sutil, 13, Jean-Ric Vergne, 12, derrière son coéquipier Ricciardo, à la 11e place. Non, ça vous inspire pas? C'est pas grave, dans ce cas-là, passons à la Q3, qui elle aussi a été passionnante. Paul Dir.
Ah ouais, ça a été passionnant, la Q3, quand même.
Ah ouais, mais c'est vrai que bon...
Elle a été surprenante, ouais, on va dire, plus que passionnante.
Paul Di Resta a fait la 10e place, Sergio Perez la 9e, Mark Webber 8e, en Red Bull, c'est loin, 8e quand même, en qualif.
Ouais, c'est Mark Webber aussi. Hein.
Non, mais il a d'autres problèmes, Mark Webber.
Il est australien.
Voilà, il fait tout à l'envers, c'est pour ça que je change pas.
Romain Grosjean 7, Felipe Massa 6, Alonso à la 5e place... Raikkonen 4 et Vettel 3, mais bien évidemment, la première ligne était une ligne argentée.
Avec une nouvelle livrée.
Voilà, avec nouvelle livrée, hein, avec Lewis Hamilton à la 2e place et une nouvelle pole de Nico Rosberg. J'ai l'impression qu'ils vont aligner les poles cette année. Ça va pas forcément leur offrir des milliers de victoires cette année, mais en tout cas, sur un tour, ils sont rapides.
Ils alignent l'usure des pneus aussi.
À Monaco, c'est parti, hein, ça se tente.
Ah bah oui, ah bah complètement.
Bah, Nico Rosberg avait fait une belle 2e place l'année dernière, en partant 2e juste derrière Mark Webber.
Mais la question, c'est est-ce qu'en Espagne, il avait perdu 6 places et le Grand Prix d'avant 8 places ou 9 places?
Non. Je me rappelle que Schumacher avait perdu son train avant sur Bruno Senna.
Ouais, c'est vrai ça.
Parce que du coup, ça l'avait empêché de partir de la pole à Monaco.
Non, mais c'était pas de sa faute.
Sa pédale de frein était trop forte.
Alors, à noter au niveau des pénalités que Massa était rétrogradé de 3 places pour avoir gêné Mark Webber durant les qualifs, et Gutiérrez, pareil, 3 places en moins pour avoir gêné Kimi Raikkonen.
Pénalité qui était pas vraiment justifiée à mon goût, je trouve. Ça a gêné aucun des pilotes qui ont été incriminés, donc c'était un peu abusif.
Bah, Massa, oui, mais après, il gêne, mais en même temps, je crois que ça se passe en Q2. Et Weber passe quand même, donc...
Ça compromet pas, justement. Voilà. Ça avait Gutiérrez à gêner Raikkonen. Raikkonen est passé en Q3 quand même. Pareil pour Massa et Weber. C'est dans le sens-là que je dis que c'est un peu abusif.
C'était donc la 3e pole pour Nico Rosberg, la 12e pour Mercedes en tant que constructeur. Et la 94e, à ce rythme-là, ils vont pas bien avoir une 100e, hein, pour le moteur Mercedes à une moyenne de 207,612 km/h.
Le service après-vente de la F1 vous présente le top 10 de la course.
Alors on va passer à la course, et Dino, comme toutes les semaines, peux-tu nous dire quel pilote ne fait pas partie du top 10 cette semaine?
Alors je vais essayer de le dire très rapidement, je dis, en faisant des phrases courtes, sinon vous allez rater des positions. Alors en 22e position, nous avons Guido van der Garde avec 16 points, à savoir que le vainqueur, dont l'identité reste cachée pour le moment, a marqué 2785 points ce week-end. En 9 points, en 21e Hamilton avec 19 points, en 30e position, Pastor Maldonado avec 35 points. En 19e position, Valtteri Bottas avec 37 points. Avec 80 points, il y a un step. Jean-Éric Vergne se classe 18e. Avec 95 points, Charles Pic, le deuxième français de notre classement en partant du bas, se classe 17e. En 16e position, nous retrouvons Nico Hülkenberg, 98 points. En 15e position, Adrian Sutil, 103 points. 14e, Jules Bianchi, 123 points. 13e, Daniel Ricciardo, 280 points. 12e, Sergio Perez, 316 points. Et enfin, Mister Eleven, avec 320 points. Et ça s'est joué pour un cheveu. Nous avons Romain Grosjean. Bravo Romain, tu n'as pas marqué le point, mais tu aurais mérité.
Alors à noter, Antoine, que tu as donné un point à Vergne.
Oui, il faisait un bon week-end. Une qualif un peu gâchée par le fait qu'il se fasse rattraper par son coéquipier. Et une belle course avant de subir problème sur problème. Il a un chamois sur sa voiture, dans sa voiture et derrière sa voiture.
Oui, c'est le moule parcours.
Ah, je pense pas qu'Helmut Marko puisse payer les mécaniciens de chez Sauber.
Oui, mais il peut s'arranger. Il a beaucoup de pouvoir, Helmut Marko.
Certes, mais je pense pas quand même, parce qu'il avait fait un très bon début de saison, Vergne. Après, est-ce qu'ils veulent vraiment garder le marché australien en remplaçant Weber par Ricciardo? C'est vrai que c'est possible.
Bah, en tout cas, pour le moment, dans les déclarations, que ce soit Marco ou Horner, ne circule pas du tout. C'est peut-être un leurre.
Après, le nom qui circule le plus du côté de chez Red Bull, c'est Raikkonen, il paraît.
Ouais, en ce moment, c'est Raikkonen et Ricciardo. Ricciardo est remonté ce week-end, d'ailleurs.
D'ailleurs, Ricciardo, dont on a donné des points, Dino. Alors moi, je lui en ai donné 2. Toi, tu lui en as même donné 10.
Bah ouais, il fait une super course, quoi. Il concrétise le bon week-end d'ensemble des pilotes Toro Rosso, qui se qualifient bien. Pas merveilleux, mais ils se qualifient bien. Ils ont fait un bon week-end. La voiture a vraiment franchi un cap.
Bon, ça fait quelques courses, déjà, que Ricciardo fait des bons trucs, quand même. Hein.
Oui, c'est bizarre. Mais c'est la dynamique positive, hein. En ce moment, Ricciardo, il a une dynamique positive, là où... C'est pour ça que moi, je crois pas... Facteur C'est une question de dynamique. Au moment, Vergne est sur une dynamique négative, il est temps pris dans des problèmes où effectivement il peut pas faire grand chose, mais tout ça, ça entraîne dans une dynamique négative, dans un peu de pessimisme peut-être et compagnie, voilà, c'est, et en ce moment tout roule un peu pour Ricciardo.
Ouais, faut juste espérer que Toro Rosso gâche pas la course à Monaco de Vergne, comme l'année dernière, avec leur stratégie un peu hasardeuse à 7 tours de la fin.
Mais ce qui est étonnant, c'est que Vergne, il est vraiment, il est monstrueux sur la pluie. Mais derrière, on a, c'est pourtant des qualités où le pilote fait la différence et où on voit aussi l'adaptation du pilote aux conditions de piste et à ses pneus, même si traditionnellement, il est meilleur en course que le Ricciardo.
Le problème, c'est que lui, visiblement, il arrive vachement bien à tirer le potentiel du grip mécanique de la voiture. Et vu que maintenant, c'est vraiment basé sur l'aéro pour la performance, ça lui joue peut-être des tours. Et surtout avec les pneus qui trafiquent vachement le côté mécanique de...
Sur l'IndyCar, en fait.
Ouais, soit une IndyCar, soit des voitures de l'année prochaine qui vont vachement être beaux. Vachement être... Qui vont être beaucoup moins basées sur l'aérodynamique.
Ah, l'année prochaine, Vergne.
Voilà.
C'est tout le problème de Vergne, voilà. C'est peut-être ça.
Voilà. Alors, à la 10e place, il a marqué 358 points. C'est Lewis Hamilton.
Alors là, on va pas me faire croire qu'il y a
Nous, on lui a pas donné de points.
Enfin, pour honnête.
Bah, il fait quand même une deuxième place sur la qualif.
Oui, ouais.
Mais enfin, vu le potentiel de la Mercedes, c'était pas non plus un expert.
C'est-à-dire qu'au bout de 10 tours, il était quand même 11e.
Oui, puis enfin, il fait une deuxième place en qualif. Je veux pas être méchant. Il est derrière son coéquipier. Puis pas mal derrière. Je crois que c'est qu'à 10e. Donc,
Non, c'est plutôt un 10e.
Mais bon, pour un mec qui devrait 6 ans, plutôt en train d'être, force est constaté, quand même que Rosberg a pas eu de chance, mais qu'il est quand même dans le match.
Hamilton, il a même pointé à la 15e place, à un moment.
Ouais.
Quelqu'un parti à la 2e place, ça fait mal, hein.
S'il avait fait comme Button au Grand Prix du Canada 2011, ça aurait été pas mal, mais là, il est resté vraiment englué au fond du peloton, quoi.
Au Grand Prix du Canada 2011, il y avait la pluie, ça aide.
Ah oui, Button a été 4 fois dernier.
Là, c'est vrai que c'est difficile. Moi, j'ai surtout aimé ce moment où on lui demande de d'aller plus lentement, et il dit, je peux pas aller plus lentement.
Hein.
Mais, c'est ça aussi, c'est-à-dire que le moment, ils ont pris une option qui était d'être basse, voire pour le coup. Même avec leurs pneus, enfin, je vois pas ce qu'ils espéraient. Ils savent très bien que leurs pneus se dégradent, quoi qu'il arrive, dégradent. Tant d'essayer justement d'être agressif avec les pneus, plutôt que d'essayer de faire des longs relais comme ils ont essayé de faire, et au final de réussir à tenir en ayant ce rythme d'escargot, quoi.
Mais est-ce qu'ils ont assez de pneus pour pouvoir être agressifs?
Ça, c'est la grande question.
C'est très étrange avec Mercedes, c'est qu'ils passent leur temps à dire on a travaillé pour la course. Le samedi après-midi, ils sont surpris parce qu'ils sont en pôle. Et le dimanche, ils font la même pour la course. Donc, est-ce que les mecs sont au courant que la course c'est le dimanche et pas le samedi après-midi? Enfin,
Puis en plus, surtout, moi je dirais que c'est pire que ça. Ça fait des années que Mercedes a toujours le même problème avec ses pneus. C'est pas à prendre à cette année. C'est pas voilà.
C'est depuis les pneus Pirelli.
Ouais, oui. Enfin, quand même, les pneus Pirelli sont pas arrivés cette année.
Ouais, dès la première année, avec Bridgestone. Non,
avec Bridgestone, ça. Enfin, ça allait encore.
C'est juste que la voiture était merdique.
Oui, voilà. Mais quand tu regardes Rosberg, il a fait sa bonne place, ce qui fait un arrêt de Lewis Hamilton.
À la 9e place, c'est ses premiers points au classement du SAV. Il a marqué 367 points. C'est vraiment la 10e, ça s'est pas joué à grand chose. C'est Esteban Gutiérrez. Alors j'ai donné un point, comme Dino. Antoine, tu lui as donné 12 points.
Ah, il a fait une course formidable par rapport à son coéquipier et surtout par rapport à ce qu'il a montré depuis le début.
Ah bah oui, là, très clairement, ça
premier Grand Prix européen.
Il arrive au premier Grand Prix européen sur un circuit qui est quand même révélateur, assez difficile. Il arrive à être premier à un moment, donc ça veut quand même dire qu'il gardait ses pneus sans perdre trop de temps. Il est quand même loin devant Hülkenberg. Bon, même si Hülkenberg perd 5 secondes de restant, plus sa pénalité, plus son changement d'aileron. Mais il est passé à travers les gouttes des problèmes et a quand même manqué la 11e place de très peu. La 10e place.
Oui. Non mais Gutiérrez, bon après c'est pas étonnant qu'il fasse un bon week-end, il a quand même été l'un des hommes qui a le plus roulé, le plus fait de tours et de kilomètres à Barcelone d'hiver, c'est un certain, c'est là où on voit que les Grands Prix à l'extérieur sont quand même très difficiles pour certains rookies, et voilà, entre guillemets, on est peut-être plus admiratif de Bianchi qui a immédiatement su, et c'est ce qui fait la différence d'ailleurs entre les rookies, Bianchi qui a immédiatement su se mettre dans les conditions sur des circuits qu'il ne connaissait pas, là où Gutiérrez, bah pour le moment il a été bon que sur un circuit où il connaît bien et où il a fait plusieurs milliers de kilomètres cet hiver. Donc c'est là aussi où finalement, oui, c'est facile d'être pilote de Formule 1 quand t'entraînes tout l'hiver sur un circuit, t'arrives sur le circuit. Si t'es pas bon, bon bah il y a un problème. Il faudra voir vraiment c'est sur la fin de saison, quand il aura fait toute la saison européenne sur des circuits qu'il connaît plus ou moins, voir comment il aura progressé sur des circuits qu'il connaît pas du le Japon, le Singapour et compagnie, voir ce passe.
À la 8e place, il a marqué 532 points, c'est Paul Di Resta. Alors, je lui ai donné 4 points. Dino et Antoine, vous lui avez donné 2 points.
Ouais, classement.
Bah, il a fait une course à la Rosberg.
C'est qu'en plus, c'est enfin coincé entre guillemets derrière les Ferrari, derrière les Red Bull et derrière la Lotus. C'était un peu le meilleur des autres. Mais c'est un peu ce qu'est la Force India cette année.
Oui, même devant la McLaren.
Ouais, puis lui, personnellement, il confirme son bon début de saison. Moi, je persiste à dire que on a accordé trop d'importance à Sewell. On a un peu oublié Paul Di Resta derrière, qui fait sincèrement un super début de saison. Voilà, il n'y a pas de gros coup d'éclat où il mène la course comme s'il est en Australie, mais c'est aussi parce que les circonstances n'étaient peut-être pas là. Mais il est tout le temps là, quoi. Quand il peut aller à l'arrivée, c'est généralement dans les points et généralement bien placé.
Mmh. Bah, surtout que ça change par rapport à sa fin d'année 2012 où il était complètement dominé par le Kangberg et où il a faisait des erreurs comme au Grand Prix du Brésil, oui. Où il se met dans
le mur. C'est encore une fois ce qu'il faudra voir, c'est-à-dire que l'an dernier il avait fait un très 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 beau début de saison aussi et il s'était éteint au fur et à mesure. Faudra voir cette année si ça le refait. Voilà.
Après en 2012 c'est peut-être aussi l'annonce du remplacement de Michael Schumacher par Hamilton alors que tout le monde rêvait de voir dans un Mercedes.
Ah bah oui.
C'est peut-être aussi ça qui
l'a fait. Il y avait des changements qui ont été faits et d'un coup la voiture semblait aussi un peu mieux correspondre à Hülkenberg qu'à Di Resta. Faudra voir si cette année justement il y a cette emprise technique de Sutil qui permettra à Sutil de prendre définitivement l'ascendant sur Di Resta comme l'a fait Hülkenberg l'an dernier.
Ou une coupe à champagne sous la gorge de l'ingénieur.
Oui. Ensuite, on a un pilote qui a commencé 14e, qui était 17e à la fin du premier tour, et malgré tout, il a réussi à finir 8e. C'est Jenson Button. Button, il a marqué 588 points. J'ai donné 6 points, Dino 4, Antoine 10.
Ben, il a
fait une superbe remontée.
Il a réussi à faire 8e.
Une belle remontée.
Oui, on va dire, il a réussi à faire 8e.
Il a surtout réussi à convaincre son équipe de dire à Pérez.
En dehors de ça, il n'y a pas de config chez McLaren, mais quand même.
Il fait quand même une remontée. S'il prend même ceux qui sont devant, ils perdent. Si je regarde sa stratégie, Button. Alors, il avait une stratégie décalée, puisqu'il a commencé en médium et il a fait ensuite 3 relais en dur. Et on voit Pérez aussi. Hein. Bon, lui, il a fait 5 relais, dont 3 en dur. Cette McLaren aimerait bien les pneus durs.
Surtout que McLaren en fait a pas pu utiliser son dernier aileron avant. Parce qu'ils avaient un aileron avant qui avait passé les tests de rigidité à l'usine, qu'ils ont récupéré que le samedi, et du coup ils ont pas pu le tester sur les tests de la FIA, et ils ont préféré ne pas l'utiliser pour pas être disqualifié.
Parce que visiblement, déjà à l'usine, ils passaient le test ric-rac. Hein.
C'était...
Donc plutôt que d'avoir une mauvaise surprise le dimanche soir, ils se sont préférés dire bon bah
on le met pas.
Quand on sait l'importance que revêt l'aileron avant, c'est l'un des secteurs où les équipes sont tout le temps en train d'apporter de nouvelles pièces parce que c'est par là que rentre tout le flux d'air. Ça peut effectivement avoir des conséquences sur le reste.
Et on sait que ça fait beaucoup jaser les questions de flexibilité, alors c'est un peu limite.
Voilà. Parce que ça, c'est aussi ce qui était important, c'est que le vendredi, elle m'avait l'air plutôt, entre guillemets, fringante. Et c'est vrai que dans la suite du week-end, elles sont revenues un peu en arrière. Donc c'est sans doute aussi lié à ça, à la masse des nouvelles pièces qu'ils ont apportées.
Est-ce qu'on commence pas un peu à voir ce côté développement McLaren? C'est-à-dire qu'ils étaient vraiment très à la ramasse. Là, on voit qu'ils arrivent à être dans les points. Hein, ça remonte tout doucement. C'est très McLaren, ça.
Bah, quand tu regardes le classement, ça remonte pas tant que ça.
Bah, j'ai pas dit que ça remontait vite, hein.
Parce que quand tu regardes par exemple par rapport à Bahreïn, Button passe de la 10e à la 8e place, Pérez il passe de la 6e place à la 9e.
Et voilà, pour que ce soit très mal placé, au final on se trouvait sur des positions qui sont à peu près équivalentes en effet.
Mais est-ce que après McLaren a la possibilité de faire un développement toute l'année pour terminer fort?
Voilà, est-ce qu'ils ont envie surtout, c'est ça.
Ouais.
Parce qu'ils peuvent.
Moi je pense qu'ils vont ils au bout d'un pas. Moment ils vont lâcher. Hein. S'ils voient qu'ils ont une voiture qui au moins peut ramener des points. Histoire quand même de se maintenir, il faudrait quand même pas qu'ils se fassent doubler par des équipes genre Toro Rosso. Sinon, oui, ils vont sans doute arrêter le développement de la voiture relativement tôt.
Mais on fait souvent le comparatif avec la Ferrari l'an dernier. Faut quand même rappeler que Ferrari l'an dernier, ils arrivent en Espagne, ils ont déjà une victoire à leur actif, et il y a eu beaucoup aussi il y avait une bonne impression laissée en Espagne. Il y avait la deuxième place d'Alonso et compagnie, il y avait une bonne course, on avait cru à la victoire pour Alonso. Donc, il y avait quand même des signes très positifs. Là, chez McLaren, on sent effectivement toute la machine McLaren qui est en route derrière pour apporter des nouveautés. Maintenant, on n'a pas non plus le sentiment que aujourd'hui, ça permet d'apporter effectivement ces résultats qui vont galvaniser l'équipe comme ça a galvanisé l'an dernier Ferrari, et ça les a maintenus en vie et ça leur a donné envie aussi tout au long de l'année de continuer à développer la voiture. Là, clairement, il y a des efforts qui sont apportés. On connaît la puissance de frappe de McLaren, mais visiblement, ça n'apporte pas, ça n'est pas décisif encore. Donc, est-ce que vraiment ils vont continuer à mettre en branle toute cette machinerie en voyant que de toute façon aujourd'hui les espoirs au championnat sont quasiment néants. Même Perez, pourtant, est le premier à caracoler. Ouais, je vais être champion. Là, lui dit là, cette année, pas cette année, non, c'est fini. Et je pense que ça va aussi être, je pense, une année de travail maintenant, et que même en termes de développement, ça va plus être de la compréhension de leur voiture.
Là, actuellement, ils sont en dispute avec Force India.
Oui.
Voilà. Bah, pour une cinquième place.
Et quand on regarde, ça fait quand même depuis 2007 où le championnat constructeur de McLaren, c'est tous les deux ans et, oui. Et pas génial dès le début. Oui. C'est en 2007, ils sont disqualifiés, bon, à cause de l'espionnage. En 2009, la voiture était quand même complètement à la ramasse avec la nouvelle réglementation. En 2011, c'était catastrophique au début d'année, ils ont très bien fini, mais grâce au développement de l'année, ce qui peut se permettre de faire ça.
En même temps, quand on regarde, à part Red Bull, rares sont les équipes qui sont arrivées à maintenir sur 2-3 ans un haut niveau de performance.
Mais
sont globales, hein, sans plus rentrer dans les
mais détails. C'est vrai que c'est très gentil. C'est aussi une organisation qui avait chez McLaren pendant des années. Il y avait une direction technique qui travaillait sur la voiture et une autre direction technique qui travaillait sur la voiture d'après. Et donc en fait, je crois que c'est Patra qui avant d'arriver chez Ferrari avait plutôt accouché des bonnes voitures et tandis que l'autre direction technique avait plutôt accouché des mauvaises voitures. Voilà. Et c'est vrai que là, par exemple, avec le départ d'Alan Perman, c'est l'une des tendances du moment. Pas d'Alan Perman, de James Allison, c'est de dire que peut-être que McLaren serait tenté de prendre James Allison, qui a su aussi mettre techniquement Lotus sur une progression lente mais constante, là où c'est vrai que McLaren, chaque année, on est toujours un petit peu en train de se dire bon, est-ce qu'ils vont être bons dès le départ ou pas? Parce que c'est vrai que depuis plusieurs années, c'est un peu à chaque fois l'attente qu'on a sur McLaren, c'est de dire est-ce qu'ils vont être bons ou pas, et donc là, il y a Paddy Lowe qui est parti, il y a Tim Goss qui a été promu, mais il avait déjà été directeur technique avant, donc est-ce qu'ils vont continuer sur ce chemin-là ou est-ce qu'ils vont pas tenter le coup et prendre un James Allison ou pourquoi pas moi je reste un grand fan de l'ancien de chez Sauber qui est arrivé chez Toro Rosso et dont on commence à voir l'influence James Kay pour effectivement redonner un nouvel élan et pour le coup peut-être adopter vraiment tous les ans confier la voiture à la même personne pour avoir une vraie progression.
Finalement, tu redonnes, parce que tu te souviens, ces dernières années, on avait tendance à dire que finalement, le grand nom qui concevait la voiture, ça avait peut-être moins d'importance par rapport à l'équipe. Et finalement, on se rend compte que, bah si. Bon, bien sûr, il y a l'exemple de Niue, mais même dans les autres équipes, on se rend compte qu'il y a quand même certaines personnes qui, parce qu'elles sont là, apportent quelque chose aux voitures.
Plus que le nom, je dirais que c'est la continuité. Et c'est peut-être ce qui manque aujourd'hui à McLaren. C'est vrai que quand on regarde Ferrari, sur les dernières années, c'est pas mirobolant. Mais mine de rien, Pat Fry, d'année en année, il a mis sa patte dans l'écurie, il a construit quelque chose, et aujourd'hui, ça commence à apporter ses fruits. Ça a été pareil avec Niue, c'est pareil avec Allison. Allison, il a peu à peu construit l'équipe, et ça a pas été merveilleux au début quand il est arrivé à la direction technique. Alonso l'a lui-même reconnu. Et après, effectivement, la Renault est devenue de mieux en mieux jusqu'au point aujourd'hui de devenir une équipe qui peut se battre au championnat, quoi. Donc, c'est peut-être aussi ce qu'a besoin McLaren. Pour le moment, McLaren, c'est vrai qu'on a toujours eu un peu de mal ces dernières années à mettre le nom du directeur technique. Voilà, il change régulièrement. Il y a un système de rotation qui n'était pas toujours très productif. Peut-être qu'effectivement, en plus avec la perspective d'un changement de moteur qui n'est pas à écarter du côté de McLaren, peut-être se dire, voilà, l'objectif, c'est 2015, avoir une bonne voiture. Donc, du coup, il faut reconstruire une équipe, repartir peut-être avec un nouveau directeur technique qui sera là sur un bail à long terme. C'est une grosse remise en question, hein.
Au niveau de la continuité, la meilleure équipe, c'est Mercedes.
Ouais, mais eux, c'est continuité, mais c'est continuité, et chaque année, on rajoute un mec, quoi.
Dans le mauvais sens, oui. Non, c'est continuité dans le directeur technique et le problème.
Mais c'est ça, le truc, c'est Mercedes, tous les ans.
Ils achètent tout le monde, entre guillemets.
Et c'est ça, c'est que tous les ans, on a l'impression qu'ils engagent un mec.
Ils font leur course.
Il va peut-être changer les choses, sauf qu'ils l'engagent à un poste, sans pour autant qu'il remplace quelqu'un d'autre. Donc.
Parce que j'ai plus la liste, mais à un moment, quand on parlait d'Allison, parmi les hypothèses, on disait, ouais, il va peut-être aller chez Mercedes. Et à un moment, il y avait la liste, bon, t'avais Aldo Costa, Rose Brown, James Allison. C'est comme une équipe de foot, c'est pas parce que t'achètes les meilleurs joueurs au monde que ça va faire une bonne équipe.
Mais pour moi, c'est ça, Mercedes.
Clin d'œil au Paris Saint-Germain.
Ouais.
Mercedes, c'est pas compréhensible quand on voit les mecs qu'il y a, c'est pas compréhensible de dire ils arrivent pas avec la voiture quoi. Et on voit que la voiture marche, mais on voit que ça manque d'homogénéité en fait, Mercedes. Et c'est peut-être ça le problème. Je pense sincèrement aujourd'hui chez Mercedes, s'il y a un mec, un seul, même dans les présentes actuelles, il y en a un seul qui a entre guillemets les pleins pouvoirs et qui prend les directions et compagnie, il y a plus les problèmes de pneus et compagnie parce que d'un coup, on a une réflexion globale, là où c'est une réflexion un peu collégiale et où on a un peu l'impression que on sait pas si partout dans la même direction.
Allez, on va passer à la sixième place. Il a marqué 819 points. Je lui ai donné 10 points. Dino 6, Antoine 8. C'est Marc Weber, qui encore une fois s'est troué lors de son départ.
Ouais, magnifique.
Ouais. Ah là, ouais, très beau.
L'année prochaine, il pourra vraiment caler.
On est bien d'accord qu'en endurance, c'est des départs lancés. Ouais. D'accord.
Ah bah, vous non, mais voilà.
Quoi que c'est pas systématique, je crois. Il y a des épreuves où il y a des départs lancés, des épreuves.
C'est pour ça que j'ai un doute. Je me dis, est-ce que c'est surtout pas, si vous avez la réponse, n'hésitez pas.
Je crois me rappeler Silverstone l'an dernier où il y avait eu un départ arrêté.
Pas arrêté? Oh, les pauvres, je sais pas.
Oh, de toute façon, dans tous les cas, il fera un vol plané. Donc...
Ne le mettez pas en premier pilote. Aïe. Ne lui faites pas faire les départs.
Bah, dans tous les cas, il va partir des stands, donc.
Oui, mais il se larde moins quand même.
Ah
quand
oui, il fait des records.
Mais de toute façon, tu regardes, il y a un 15 dans la voiture, il ne fonctionnera pas.
Mais après, bah, sur sa course, il n'y a pas grand-chose à dire, quoi. Il se gaufre bien, il se remet bien, mais à un moment donné, ça plafonne. Parce que je pense que la voiture plafonne tout simplement avec les pneus et avec...
Ouais, la Red Bull a plafonné, ouais, voilà. Enfin, il a plafonné.
Il finit 20 secondes derrière Vettel.
Plafond, il y avait Vettel, donc forcément, voilà.
Bah, c'est surtout qu'il prend bien 20 secondes d'écart avec Vettel à cause de son départ complètement foiré. Il les a jamais récupérés.
Ça, il va le regretter, ce Grand Prix de Malaisie. S'il gagne pas une fois de cette saison, putain.
Ah bah, je pense qu'il partira, quoi.
C'est peut-être même si déjà décidé.
Bah, il va gagner avec les pneus Red Bull.
Ah, il gagnera peut-être à Silverstone.
Oui, généralement, c'est vrai qu'il gagne sur des beaux circuits. Donc, méfiance à Monaco et Silverstone. Méfiance à Spa. C'est jamais.
Oh, à Spa, non, je pense pas. Il y aura bien Raikkonen pour lui le doubler dans le ratillon.
À la cinquième place, eh bien, on trouve l'autre pilote Mercedes, Nico Rosberg, 898 points. Je lui ai donné 8 points, Dino tu lui en as donné 12, Antoine tu lui en as donné 4. Il s'est moins effondré que Lewis.
Bah, sauf qu'il est devenu aussi transparent que la nouvelle.
Bah, il est devenu aussi transparent que lui.
Mais les deux étaient transparents, enfin, c'est-à-dire qu'ils sont obligés de rouler les coudes à la portière, donc c'est sûr qu'il n'y a rien d'excitant dans ce qu'ils font.
Et ils s'en doutaient en plus.
Bah, je pense heureusement qu'ils sont bien payés.
Quand il y a eu les qualifs, la pole et la conférence, on sentait que même eux ils disaient « Oula, attention, il y a la course !»
Et c'était Rosberg qui l'a bien dit, oui, on va attendre demain parce qu'on a bien vu. Ouais, bah,
il s'est passé la même chose.
Qui se passe.
Mais c'est vrai qu'il a fait une bonne course. C'est-à-dire que par rapport à ce qu'on avait vu à Bahreïn, il s'est moins effondré et il a moins insisté aussi, il a été un peu moins bête. On a eu l'impression qu'il cherchait moins à rattraper son retard sur Hamilton ce week-end que ce qu'il avait fait à Bahreïn. Donc un peu plus intelligent, un peu plus de réflexion et...
Pour le coup, ça a payé.
Oui,
parce qu'il a fait un arrêt de moins.
Il finit sixième, quoi. Ce qui, bon, c'est toujours décevant, surtout quand on part en pole. Mais par rapport à la course d'Hamilton, oui, il peut être satisfait quand même.
Mais après, il fait un arrêt de moins. Hamilton fait un arrêt de plus. Mais on continue quand même de lui demander de rouler lentement. Donc c'est peut-être aussi que pour le coup, vraiment, Hamilton arrivait pas à exploiter les pneus. Parce que si déjà, en ayant des fenêtres de tir beaucoup plus courtes et des relais plus courts, il bouffait ses pneus. Même en étant sur une stratégie plus longue, il aurait rien fait. Je pense à Hamilton, non.
Rosberg a fait une stratégie comme Button, c'est-à-dire un seul run en médium et ensuite tout le reste en dur.
Ouais. Mais bon, lui, il est obligé.
Oui, voilà.
Mais c'est peut-être aussi dire que dans sa tête, il y a peut-être aussi un peu de fatalisme. C'est-à-dire que autant il y croyait peut-être encore au Bahreïn, autant le Bahreïn lui a clairement fait prendre qu'il avait sans doute pas la voiture aujourd'hui pour pouvoir, ne serait-ce même que rattraper immédiatement son coéquipier, et que ça serait plus un travail de longue haleine, reprendre quelques points par-ci par-là régulièrement à Hamilton.
Ne dis pas ça. En plus, le prochain week-end, c'est peut-être le week-end où il doit y croire.
Oui, non mais oui, mais... Pour la victoire, sur le long terme, je pense que voilà, en dehors d'un éclat, aujourd'hui son objectif c'est de repasser devant Hamilton, donc ça va se construire sur le long terme.
Le problème c'est que tant qu'il n'aura pas fait un podium, ça ira pas, parce que Hamilton a fait deux podiums, dont un sur tapis vert. Si Hamilton fait un podium et que lui n'en fait pas et qu'il reste juste derrière mais trop loin, ça se passe.
Mais c'est
très
ça,
mal dans
c'est le côté psychologique. C'est là où on va vraiment voir entre guillemets la valeur de Rosberg. C'est que fondamentalement, moi, je pense qu'en performance, Rosberg depuis le début de saison, il a pas perdu de la comparaison avec Hamilton. Et c'est vrai que globalement, moi, j'ai plutôt une bonne impression sur Rosberg. Mais c'est vrai que c'est très mal payé. Ça fait un peu penser à Schumacher l'an dernier. un bon début de saison, mais mal, super mal payé, quoi. Alors après, il faudra voir effectivement si au fur et à mesure de la saison, il va pas réussir à prendre le dessus régulièrement sur Hamilton. Je pense aujourd'hui, ça doit être son objectif.
Mais est-ce que Hamilton a vraiment envie de se battre au maximum alors qu'il il doit rouler à 30% de son potentiel?
Sans doute. Mais après, c'est aussi là où c'est dans le jeu logique. C'est est-ce qu'il faut pour autant, parce que la voiture te plaît pas ou que les conditions dans lesquelles tu roules ne te plaisent pas, est-ce qu'il faut pour autant te laisser abattre? Si Rosberg le bat à ce niveau-là, bah, j'ai envie de dire, même si c'est démoralisé, ça reste quand même une victoire pour Rosberg. Parce que c'était à Lewis Hamilton de pas se démoraliser. De la même manière que l'an dernier, je suis convaincu que la fin de saison terne de Rosberg, elle est au fait que Rosberg s'est démoralisé et que c'est de sa faute finalement s'il se démoralise. On peut pas reprocher à Schumacher d'avoir peut-être fait une meilleure fin de saison que Rosberg. Si en face Rosberg s'est démoralisé, c'était à Rosberg de continuer à faire le boulot sérieusement, même si c'est sûr que je comprends que ce soit difficile peut-être en ce moment pour Hamilton, mais il savait aussi dans quoi il s'embarquait et se démoraliser aussi vite, ça serait pas un bon signe de la part d'Hamilton.
Quatrième place, ça tombe bien, il a fini quatrième avec 1275 points, c'est Sebastian Vettel. Alors moi, je l'ai mis quatrième. Hein. Dino, tu lui as donné que 8 points. Et Antoine, tu ne lui as même donné que 6 points.
Ouais.
Bon, on va dire que là, pour le coup, on l'a pas vraiment vu. Il a fait son boulot avec ce qu'il pouvait, mais c'est tout.
Bah surtout, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une Red Bull finalement plafonner. C'est pas si souvent que ça que c'est arrivé quand même ces dernières années.
Bah là, on a vraiment senti qu'elle était vraiment limitée. Que niveau performance... Enfin, niveau performance, si, elle est vraiment là. Mais il y a l'équation des...
Mais c'est ce qui est assez étonnant, c'est que les deux Red Bull ont fait un assez bon début de course, même un très bon début de course, et peu à peu elles se sont éteintes. Alors que généralement elles avaient plutôt tendance en tout cas cette année, à mieux se comporter un peu à l'image des Mercedes, mieux se comporter légère en fin de course qu'en début de course où elles se bissaient un peu plus. Là, alors est-ce que c'est parce qu'ils se sont dit ouais on a les pneus durs et compagnie, donc on va mieux se comporter sur la fin. Enfin, ça a pas marché quoi. Globalement, même Vettel, il pouvait rien faire quoi.
Moi, cette voiture, quand même, elle me laisse globalement une impression bizarre. Je n'arrive pas à dire si elle est très performante ou pas. Enfin, ou même sans être très performante ou pas. Parce qu'elle arrive à gagner dans des situations où, a priori, les débuts de week-end sont pas super bons et on se dit, ça va pas être terrible. Mais bon, au bout d'un moment, tu dis, il y a 2 victoires en 4 courses. Donc, bon, c'est qu'au final, elle marche bien, cette voiture. Et là, ce week-end, voilà, elle était en dessous, clairement en dessous des Ferrari de l'autre.
Mais c'est un peu comme l'an dernier. Hein. L'an dernier, début de saison, on sait trop quoi penser des Red Bull. Hein.
Bah, il y a une phrase qui résume bien la situation, ça vient de Vettel, c'est on roule.
Oui, mais ça, tout le monde le fait.
Oui, non, mais c'est vrai.
C'est ça le problème, c'est que d'un côté, aujourd'hui, on l'a particulièrement bien vu en Espagne. Je vais prendre l'exemple de Ferrari, il y avait une voiture on a l'impression que Ferrari, ils n'ont même pas eu besoin de se poser des questions sur les pneus. Ils ont réussi à exploiter les pneus de musée un peu comme on faisait l'an dernier. Et c'est un peu le problème, c'est là. Maintenant, pourquoi est-ce que ça ne marche pas chez certaines écuries? Est-ce que c'est un problème de communication, de méconnaissance des pneus ou on ne sait pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, Ferrari et Lotus, elles ont un avantage. Pour quelle raison? Va falloir explorer. Alors c'est peut-être effectivement parce que d'un côté il y a une écurie italienne qui a peut-être des accointances avec Pirelli, de l'autre côté il y a Lotus qui a Pirelli utilisait la voiture Renault il y a quelques années, donc il y a peut-être aussi une philosophie qui a peut-être passé, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on a l'impression que les Ferrari, les Lotus, compris les pneus, là où on a une très bonne Mercedes, on a une très bonne Red Bull, mais dès qu'on leur met des pneus, ça marche moins bien. Alors voilà, c'est aussi le but du jeu, c'est qu'à un moment donné il faut aussi savoir faire une voiture en fonction des pneus, et c'est le défi qui est fait cette année, et c'est le défi auquel Red Bull n'a pas envie de répondre, parce que c'est pas pour ça qu'ils sont là. Mais j'ai envie de dire, ça a toujours été aussi dans la donne de la F1, fait une voiture en fonction de la réglementation. Et c'est ce qui est surprenant, parce que c'est ce qui les a fait aussi devenir les meilleurs. Ils ont su profiter d'un changement de réglementation. Là, ils sont obligés de se remettre en question véritablement chaque année, quoi.
Mais du côté, on va revenir à la problématique. Les écuries, au moment de commencer à dessiner la voiture, ils avaient peut-être allé 3/4 d'heure de roulage.
C'est-à-dire que même pas. C'est-à-dire qu'ils les connaissent même pas. Quand ils commencent à dessiner la voiture, ils ne savent même pas ce qu'ils font.
Non, mais jusqu'à ce que la voiture soit sur les pneus,
ouais.
Ils ont roulé même pas 3/4 d'heure avec. C'est ça qui est honteux, en fait. Qu'on en revient à la...
Et ça, c'est leur faute à eux aussi. C'est-à-dire que pourquoi ils ont pas pu rouler sur les pneus? Parce que déjà, ils ont partagé leur programme de développement, l'année dernière sur les essais jeunes. Donc, ils ont pas pu avoir les pneus. Donc, voilà, à un moment donné, c'est aussi, je pense, une remise en question. C'est pour ça qu'il m'énerve un peu, de taper sur Pirelli, de dire, les pneus, aujourd'hui, c'est devenu des pneus. Mais remettez-vous aussi un peu en cause. remettez aussi tout le monde en cause, arrêtez de taper sur Pirelli et montrez un peu du doigt à vos camarades, commencez peut-être aussi à balancer en disant on s'entend jamais sur rien, on n'arrive pas à se mettre d'accord, il faut qu'on se mette d'accord. Ça, malheureusement, Red Bull, il préfère...
Et il le faudra pour l'an prochain, sinon ça va être pareil l'an prochain.
Bah, là, vraiment, ils ont l'air d'être plutôt d'accord pour faire des essais en commun au mois de juillet à Silverstone. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'ils vont en profiter, par exemple, pour tester des nouveaux pneus voilà. Et est-ce que ça sera pas des pneus qui seront juste pour 2013, pour la fin 2013, ou est-ce que ce seront des pneus qui seront pour la fin 2013 et pour 2014?
C'est impossible, je
pense qu'aujourd'hui on est confronté au problème du cahier des charges qui est donné à Pirelli. Pirelli, ils essayent de faire avec un cahier des charges. Aujourd'hui, on se rend compte que quoi qu'il arrive, de toute façon, il y a un problème derrière. Même si on fait des essais en début de saison ou enfin on fait des essais anticipés, on arrivera avec des pneus qui sont trop bien connus par les équipes au moment de la saison prochaine. Et donc on sera plus vraiment dans le cahier des charges où les équipes seront. Il y aura un élément de surprise avec les pneus. Donc c'est sans doute, je pense, qu'il faut revoir le cahier des charges avec Pirelli pour trouver une autre solution de mettre du spectacle, mais en gardant quand même les ingrédients clés de la F1, quoi.
L'an dernier, ça allait, hein.
Oui. Ce qu'il faut réussir, c'est garder ce qui se faisait l'an dernier, tout en réussissant à anticiper. C'est-à-dire que là, Pirelli eux-mêmes le disent, ils n'ont pas anticipé le fait que les voitures allaient aller 3 secondes plus vite cette année. Comment l'anticiper? Bah, c'est en faisant plus d'essais avec Panis, que se bat Pirelli en ce moment, c'est d'anticiper un maximum. Mais le problème, c'est que l'an dernier, ni les équipes ni Pirelli n'ont suffisamment anticipé les problèmes qu'elle est arrivée cette année. Et ces trucs, hein, c'est que dès que chaque année on veut se remettre en cause, bah si t'anticipes pas, bah oui, tu vas te remettre en cause, tu vas changer les pneus, mais si t'as pas anticipé, si personne n'a anticipé, il y aura forcément des problèmes avec les pneus. Et l'année prochaine, il y en aura forcément.
Mais si on va passer au podium, à la troisième place, il a marqué 2054 points. Vous l'avez mis troisième. Moi, étrangement, je l'ai mis deuxième. Allez savoir pourquoi. Et pourtant, j'ai hésité. Honnêtement, j'ai hésité. C'est Kimi Raikkonen. Encore une fois, on l'a souvent dit cette saison, mais pas un arrêt en moins. Et puis, bah toujours cette problématique. On en revient.
Alors là, je comprends pas la stratégie de Lotus.
De Lotus.
Ils font un bon temps en qualif. Ils sont même devant les Ferrari. Donc en performance, la Lotus était là. Et ils continuent sur le schéma qui est leur schéma depuis l'année dernière et depuis cette année, sur le début de l'année, qui est d'essayer de faire un arrêt en moins. Moi, je reste.
Tu penses qu'ils auraient dû faire un arrêt en plus en ayant un rythme plus élevé
sur la stratégie, une stratégie égale à Alonso. Je pense qu'ils posent davantage de problèmes à Alonso. De là à gagner, peut-être pas, mais ils posent davantage de problèmes. Ils finissent qu'à 8 secondes en comptant le ralentissement d'Alonso sur la fin de la course.
C'est vrai que là, comme ça, c'est le seul à avoir été dans le rythme des Ferrari.
Avec un arrêt.
Clairement. Avec un arrêt de moins.
Connaissant le coup de volant de Kimi Raikkonen et la capacité qu'a la Lotus à gérer ses pneus, je pense qu'il pourrait permettre à Raikkonen de taper un peu plus dans ses pneus.
C'est ça le truc, c'est qu'il y a quand même cette crainte que, en plus ils l'ont vécu, souviens Raikkonen l'an dernier, que d'un coup, ça chute et qu'il perde tout l'avantage. Je pense que c'est une crainte en effet, et que c'est peut-être le moment, comme tu le dis, doser un peu plus.
Bah oui, c'est-à-dire que si tu essayes jamais, tu vas jamais savoir. Surtout
s'il commence à avoir des vraies ambitions, et là maintenant il peut se le permettre parce que c'est quand même l'autre grand gagnant du week-end, hein, surtout au classement. Maintenant, s'ils veulent vraiment avoir des prétentions, va falloir oser un peu plus. Et sinon, très satisfaisant, très belle course. Voilà.
Il a fait une course égale à lui-même.
J'attends encore la course de Raikkonen. C'est-à-dire que pour le coup, j'aime beaucoup Raikkonen. C'est vrai que c'est un pilote qui est beau, mais je trouve qu'aujourd'hui, beau dans son pilotage, mais je trouve qu'aujourd'hui, qu'on mette en avance qualité d'économie avec les pneus, c'est quand même pas la qualité première de Raikkonen. Et là, pour le coup, on peut pas accuser les pneus Pirelli, puisque la Lotus est l'équipe qui se comporte le mieux avec les pneus. Donc, il serait peut-être temps, à un moment donné, qu'on demande à Raikkonen, enfin, sincèrement, moi, je regrette aujourd'hui qu'on ne demande pas davantage, que Raikkonen lui-même n'attaque pas davantage dans les pneus. Ou alors, c'est qu'ils sont vraiment pas confiants dans le fait de, en attaquant dans les pneus, ils vont aller.
Moi, je pense qu'ils sont pas confiants dans les pneus, hein. Qu'ils restent frileux.
Parce que Massa, il a un peu attaqué.
Ils savent qu'ils peuvent les exploiter, mais ils ont la prudence de dire, attention, si on commence à aller un petit peu trop loin, ils sont peut-être juste à la limite de ce qu'ils peuvent se permettre.
Oui, c'est-à-dire qu'en ce moment, ils sont, entre guillemets, dans la configuration optimale. Voilà. Et c'est effectivement les qualités de la voiture et compagnie. C'est peut-être un film qu'on se fait. C'est juste que ils ont décidé d'adapter le pilotage et compagnie pour bien exploiter les pneus et de ne pas sortir de cette fenêtre d'exploitation. C'est un peu dommage. C'est-à-dire que pour le coup, vraiment, c'est que c'est une voiture pour le coup vraiment très précise dans son utilisation. Il faut pas faire n'importe quoi avec.
C'est possible. Hein.
Ce qui pourrait aussi expliquer une partie des problèmes de Romain Grosjean depuis le début de l'année.
Parce qu'en plus, on voit que les stratégies sont quand même toujours plus ou moins la même chose. Comme tu l'as dit, il aurait pu peut-être essayer un arrêt en plus et d'aller taper plus dans les pneus.
Alors par contre, à Monaco, ça sera peut-être la stratégie gagnante.
Est-ce qu'il y aura besoin de faire plus qu'un arrêt à Monaco ?
Le problème, c'est qu'à Monaco, là, pour le coup, la qualif, parce que c'est Monaco, est importante. À moins qu'ils osent... à moins qu'ils se disent, on va peut-être utiliser un petit peu plus de pneus en qualif, quitte à en cramer un peu plus, et ce qu'on va cramer en qualif, on va l'économiser en course, ça peut marcher à Monaco.
Ah mais quand tu regardes l'année dernière, Vettel n'avait fait qu'un.
Je pense que cette année ils en font quand même un peu plus.
On bien aidé par le rapport au chalet.
Il faut se rappeler quand même c'est les super tendres et les tendres qu'ont pas changé. C'est les mêmes que ceux qu'on a eu en début d'année. Et je pense que là l'avantage qu'aurait, je pense ça jouera 1-2, il y en aura peut-être en 3 arrêts, mais ça jouera effectivement autour de 1. Je pense sincèrement 2 arrêts, ça sera la moyenne. Si Lotus arrive à faire un seul arrêt, d'accord. Là pour le coup en gardant l'idée que comme ce qu'ils ont fait ce week-end, c'était d'être suffisamment rapide. S'ils arrivent à faire qu'un seul arrêt. Là, Monaco, ça pourrait être intéressant.
Qu'ils arrivent de nouveau à être assez près en qualif, parce que là, c'est oublié, Harry Connell, il part quatrième.
Mais je suis pas d'accord
avec l'arrêt, qu'il y aura deux, beaucoup d'arrêts. Deux, c'est pas énorme.
On peut dire que actuellement, deux, c'est pas énorme.
Ouais, non, mais quand tu regardes, vu comment les super tendres ont quand même retenu relativement bien sur certaines voitures en Australie, à Monaco, qui est une surface pas du tout abrasive, pourquoi pas?
Sincèrement, je suis pas sûr qu'il y en ait qui tentent un arrêt, en tout cas dans les équipes de pointe.
Si il y en a une qui tente, ça peut être
le temps. Là, ça peut être une bonne opération pour eux. C'est là où je dis, je pense que le tarif va être 2 arrêts. Il y en a certains qui vont essayer 3 arrêts, mais je pense que le tarif moyen sera 2 arrêts et que Lotus, en ne faisant qu'un seul arrêt, parce que en jouant sur les qualités de la voiture et en se qualifiant peut-être aussi bien que ce qu'ils ont fait cette semaine, là, je pense que ce sera des prétendants très sérieux à la victoire, comme ça a été le cas en Australie. En Australie, on les a pas particulièrement vus, mais en faisant un arrêt de moins, ils avaient réussi à dominer la course.
Ça peut le faire d'autant plus que on voit tous un peu la météo qu'il y a en France. Visiblement, c'est plutôt frais quand même en ce moment sur la France. Donc si en plus c'est pas trop chaud.
Mercedes Parker à Monaco, l'horreur.
Ah, puis tu regardes Monaco, historiquement, les moteurs Renault ont toujours été bons. Soit en 2010, il y avait quand même eu un triplé de moteurs Renault, dont Kubica.
Non mais c'est Massa qui gagne.
Franchement, il n'y a rien qui pourrait me faire plaisir pour le
Massa,
coup.
Massa, qui justement, vous en doutez, a fini deuxième du classement avec 2639 points, ce qui n'est pas très loin finalement de la première place. Par rapport au classement qu'on est habituellement, il y a beaucoup plus d'écart entre le premier et le deuxième.
C'est à peine 150 points du vainqueur. Vous aurez tous reconnu, pour faire faux suspense.
C'est de la photo de drapeau, il aurait fait un drapeau brésilien.
Donc bien évidemment, vous l'avez mis deuxième, moi je l'ai mis troisième. Je le dis honnêtement, j'ai hésité, parce que c'est vrai qu'il fait quand même une très belle course. Je trouve globalement qu'il fait un bon début de saison. Alors, on va dire un bon début de saison d'équipier d'Alonso. Voilà.
Oui, enfin un bon début de saison par rapport à ce qu'il a pu faire par le passé. Mais aussi parce qu'il a une bonne voiture, c'est-à-dire que là pour le coup, il n'a pas à se poser de questions. Par le passé, il se posait des questions, il commençait pas dans des bonnes circonstances. Là, il commence dans de bonnes circonstances. Bon, il fait pour le coup un bon début de saison. Moi, je serais quand même la fou. Je pense sincèrement qu'il aurait pu faire mieux.
Notamment face à Raikkonen.
Pas forcément sur ce week-end, parce que ce week-end malheureusement il part 9e et ça impacte sa course. Derrière, avec Raikkonen qui fait un arrêt moins que lui, c'est vrai que c'est difficile de tenir. Il a tenté sur la fin de la course, il a vu que ça fonctionnait pas, donc il n'avait pas de raison d'aller plus loin. Mais je pense globalement, c'est globalement depuis le début de saison où je pense que il aurait pu être un peu mieux encore. Il a eu des fenêtres de tir, notamment lors des abandons d'Alonso, dont il n'a pas su parfaitement tirer profit. Alors que on voyait la Ferrari plutôt bien tourner et lui en course ça passe concrétiser. Là où je pense qu'Alonso aurait lui su concrétiser. Donc pourquoi? Peut-être parce qu'il n'a pas la meilleure stratégie et compagnie, ou peut-être parce que dès que Alonso n'est plus en piste, Ferrari est un peu déboussolé et ne sait pas se contenter de Massa. Faut voir, mais je pense qu'il aurait pu faire un peu mieux. Là, il fait un podium qui est amplement mérité. Mais c'est surtout sa remontée des courses, on fait un super départ. C'est bien. Place de mieux, ça aurait été mieux, mais c'est derrière Raikkonen, quoi. Il est devant Vettel, c'est le principal. Aujourd'hui, Mais aujourd'hui, c'est ce qu'il fallait, quoi. Il faut qu'il arrive à se mettre au moins devant le leader du championnat pour que Alonso puisse en tirer profit. Derrière, Alonso, quoi qu'il arrive, il reprend des points à Raikkonen. Donc après, c'est sûr qu'il aurait pu reprendre 3 points de plus si Massa était passé devant. Mais c'est pas aujourd'hui dans le fonctionnement d'Alonso. La cible aujourd'hui, c'est pas Raikkonen, c'est Vettel. Donc il a réussi à se mettre devant Vettel, c'est ce qu'il faut. Si jamais Raikkonen passe devant au championnat, il faudra qu'il réussisse à se mettre devant Raikkonen. Et être juste derrière Vettel, c'est pas trop grave. Au moins, il est dans la lutte, quoi. Ces dernières années, il était généralement à la porte du top 5, des écuries de pointe. Là, il est dedans, il est dans le match.
Ouais. Il est juste derrière Hamilton et il devrait pas tarder de le dépasser, je pense.
Sincèrement, il devrait finir quand même à la fin de la saison, vu la Ferrari, il devrait quand même finir devant les Mercedes.
On va dire que l'objectif, je pense, de Massa, c'est là de dépasser la centaine de points. Je sais pas
devait être juste au-dessus. Parce qu'il avait très mal commencé. Après, il a fait une belle fin de saison avec 2-3 podiums.
Il a fini 7ème avec 122 points. Avec, en effet, 2 podiums à la fin. Là, actuellement, il peut peut-être jouer la 4ème. Il peut jouer, à la limite, pour l'instant, 4ème, voire même 3. Enfin, 4ème réaliste, je pense qu'il rêverait 3ème.
Moi, personnellement, je vois que les deux Ferrari pouvoir rentrer toutes les deux dans le top 5 au final.
De toute façon, aujourd'hui, clairement, c'est l'équipe du championnat constructeur, c'est pour le moment, c'est Ferrari.
Oui, c'est pour ça que c'est important que Massa soit bon, quoi. Et d'ailleurs, sur cinq courses, 3 fois Ferrari a marqué le plus de points.
Mais toujours pas le doublé. La photo de la 100.
Surtout sans compter qu'il y a 3 courses donc où Ferrari marque plus de points. Je pense que dans les 2 courses restantes, il y a les 2 courses où Alonso n'est pas là. Donc on peut quand même considérer que si Alonso avait été là, dans ces courses-là, oui.
Non, parce qu'il y a Bahreïn. Il y a Bahreïn où les deux, Alonso marque des points, voilà. Et Massa
ils ont marqué que 4 points.
Le double d'échappage de pneus.
Mais bon, à Bahreïn, je considère Alonso pas là parce que il peut pas faire grand chose.
Il fallait pas qu'il appuie sur le bouton.
Et donc Alonso, qui a fini premier, bien évidemment, vous en étiez tous doutés.
Et là, je pensais que c'était Maldonado.
L'Italia, l'Italia, c'est déjà, dell'elmo di Scipio, c'est gita la testa, dove la vittoria, le porgarà Gioma. Ah là, c'est bon, ça y est, c'est fait.
Bizarrement, c'est jamais quand tu chantes que t'as des points
c'est
de
bizarre,
sélection.
Hein. C'est ballot. Hein. C'est pour toi, Plique.
Attends, parce que je vais avoir un petit montage à te donner. Concernant cela, j'en ai pour 5 petites secondes, si j'arrive à pas avoir des problèmes. Mais ça va être en réponse à cette victoire. Enfin, surtout à ton chant.
Ça pue. Je sais pas pourquoi ça pue.
Ce sont les petits canards.
C'est méchant, ça.
Oui, je sais, mais il y avait des petits canards, quand même.
Donc Alonso, que dire?
Comme tu disais, on n'avait pas l'impression qu'il avait de problème avec les pneus, lui.
Mais on l'a pas vu.
Oui, mais non, mais c'est parce que...
Il va falloir que tu te repasses quelques extraits de la course quand même. Je suis désolé, mais le dépassement... Le départ, il est prudent.
Ah oui, le virage 3.
Le dépassement dans le virage 3. Ça s'appelle comment déjà ce virage? C'est pas la courbe Dunlop ou un nom de genre? Ça doit être ça.
Lequel
le virage 3.
Virage 3,
le dépassement sur Hamilton à l'extérieur où il en passe 2.
On s'en fout que c'est le virage là. Tout le monde l'appelle le grand virage là.
D'ailleurs, il va peut-être s'appeler le virage Alonso bientôt.
Non, il s'appellera le virage Dillmann, parce qu'il a bien dit qu'il avait copié sur le petit français en GP2 de Tom Dillmann.
Oui,
non,
il
non,
l'a dit.
Vrai, il a dit lui-même, j'ai regardé la course de GP2, le dépassement-là a été rediffusé 4 fois durant la course de GP2, et du coup il a dit, ah tiens, ça paraît une bonne idée,
mais ça prouve la modestie.
Je pouvais pas dépasser en ligne droite, donc je me suis inspiré de ça.
Mais oui.
La modestie?
Mais non, mais la modestie, quand même, il reconnaît publiquement que voilà, il a vu ça et que d'abord l'intelligence de se dire oui, je vais m'en inspirer, et puis la modestie derrière de dire oui, non mais moi j'ai rien inventé, ça a été fait par un mec de GP2. Il y a d'autres champions qui l'auraient pas fait ça.
Ouais.
Certes. Peut-être bientôt les aveux du match de photographe.
Ah.
Non, il a pas encore avoué. Ça m'étonne.
Il a eu raison.
Comme quoi, tu vois, il y a pas que Raikkonen qui agresse des photographes.
Oui.
On en a fait un fois, mais voilà, c'est pas le seul.
Eh mais Raikkonen, il avait prévenu au début.
Même pas. Je crois pas. Il avait juste poussé.
Oui. Il a dit oui, t'es sur mon sac.
Mais non, mais c'est une référence à Abu Dhabi.
C'est le truc, faut pas toucher chez Raikkonen, c'est son sac. Ouais.
Et c'est de l'as.
C'est les gars de Lotus, voyons.
Oui. Avec l'autographe photocopié de Kimi Raikkonen.
Mais bon, sinon, Alonso, voilà.
Comme souvent avec les premières places, bon, là, il est pas parti en première place, il a pris la tête au 10ème tour, je crois. Bon, voilà, quoi. Bon, il l'a perdu au moment des arrêts, mais sinon, oui, il a toujours été en tête, quoi.
Mais c'est un peu comme, bah, il a comme dominé la course, à Bahreïn. C'est-à-dire qu'on a l'impression, bon, à Bahreïn, il n'y avait quasiment pas de rivaux, mais vraiment, parce qu'ils avaient disparu de la course pour Vettel. Mais on a eu un vainqueur qui a donné l'impression de dominer la course. Après, dès le départ, avoir dû batailler et avoir fait des belles manœuvres. C'est vrai qu'Alonso, il...
Pour avoir atteint la première place.
Voilà, Alonso, il va chercher quand même la première place. Et puis après, une fois qu'il est, bah, voilà, il gère sa course. À l'image de ce qu'avait fait Vettel... à Bahreïn, avec peut-être un peu plus de résistance, parce que bon, il y avait Raikkonen derrière, mais d'ailleurs Raikkonen qui est derrière tout le monde en ce moment.
Ah, il a dit, hein, c'est que la deuxième place, je m'en fiche. Il s'est oui, bien bah, en Malaisie,
début
mais
de saison, c'est soit il est deuxième, soit il est pas là, soit il est premier. Bon, ça ressemble un petit peu à du Alonso de l'an dernier, ça, quand même.
À moins les abandons. D'ailleurs, il reste plus que deux Grands Prix avant de rattraper Michael Schumacher.
Alors au classement, eh bien c'est Alonso qui est premier, 84 points, devant Raikkonen, 82, et Vettel, 72, Massa est quatrième avec 58 points. Au classement des équipes, Ferrari a 143 points, devant Execo, Lotus et Red Bull, 106 points, Mercedes est déjà à 78 points. Dans l'autre classement, Sébastien Vettel est leader, 89 points, devant Raikkonen, 85, Alonso, 72, et Hamilton est à 50 points, donc il y a un petit creux qui s'est formé. Chez les constructeurs, Red Bull 131, Ferrari 117, Lotus Renault 111. Messieurs, on va passer au fait marquant de la course.
Ouais.
Et vous avez été 111 à voter quel était le fait marquant du Grand Prix de Bahreïn. Merci à tous d'avoir voté. De même, merci à tous ceux qui ont voté pour le top 10. Et dis-nous, on a une égalité.
Oh merde.
Oui, ça arrive parfois, une égalité. Puisque vous avez été 15 à voter Sébastien Vettel, who else?
Ah, c'est moi ça.
13,51%. Mais donc ex-aequo, avec 48 votes et chacun 43,24%, vous avez choisi le gaspillage à répétition de Ferrari et Grosjean, il s'envole cette semaine, mais ne percute personne.
Donc c'est moi qui commence?
Bah oui, parce que comme tu perds tout le temps...
Oh, ouais.
Ah, excuse-moi, mais je suis quand même plus souvent à la première place que toi.
Oui, non mais parce que c'est stratégique, c'est dit.
Ouais, mais c'est ce qu'on dit, oui.
Alors, ce sera...
T'as de la chance que je compte pas.
Une première ligne Mercedes qui tourne encore en eau de boudin.
Je laisse la deuxième place à l'invité, bien évidemment.
Bah en fait, je cherche parce que j'avais totalement oublié ça.
Ouais, de toute façon, à moins de connaître, enfin, à moins de regarder avant, ce qu'on ne fait jamais, étonnamment, on ne le fait jamais, c'est dingue.
Ouais.
Alors qu'on pourrait, tu peux pas trouver à l'avance. C'est la magie de cette rubrique.
Oui, c'est ça le pire.
C'est une rubrique, faut savoir, c'est une rubrique qui prend à peu près un quart d'heure à enregistrer, mais qui fait 45 secondes au final.
Non, parce que j'ai bien un fait, mais il est pas assez marquant, je pense. La désillusion de Williams un an après.
C'est un fait marquant de la débandade, c'est le thème de cette semaine.
Je pense. Ouais. Maintenant, tu peux parler de vernis. C'était plus simple l'année dernière par rapport à Williams, tu pouvais dire la victoire part en fumée.
Oui.
Oui.
Là, en plus, on peut rien mettre sur les Français parce que les pauvres, ce week-end, n'ont pas été super à leur avantage.
Ouais, ils avaient quand ils ont abandonné. Quoi.
Ouais. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a comme problème de suspension cette année?
Ouais, bah à cause des pneus, je pense. Hein.
Apparemment, pour le cas de Grosjean, non. Mais certains cas, comme Hamilton au Grand Prix précédent, hein, il y a quand même...
C'est du scotch.
Des suspicions.
Oui, c'est le scotch.
Oui, c'est le scotch, ouais.
Pour Grosjean, visiblement, c'est juste qu'il est passé un peu trop sur les vibreurs, quoi.
Bah Grosjean, je pense oui que c'est dans le. Enfin, lui, il a dit que dès le départ ça se comportait bizarrement, mais je pense que c'est peut-être en chassant un peu de l'arrière sur l'un des boudins qu'il y a dans le S très rapide, il a peut-être dû taper de l'arrière et casser sa suspension.
Tiens, justement, en parlant de Grosjean, j'ai bien envie de mettre Grosjean ne fait que 8 tours, mais promis juré, c'est pas de sa faute.
Je lui dis, il veut nous en faire chaque fois sur Grosjean, il veut nous faire. Alors Grosjean, machin.
Ah non, mais... oui, c'est vrai. Oh, bah non, alors jusqu'à là, non, je. Non.
Non, sinon tu fais Grosjean avec le rythme, mais pas la suspension.
Non, j'ai fait avec Grosjean la dernière fois. J'avais complètement zappé en plus. Non, je vais pas faire tout le temps sur Grosjean.
Oui, il faut que tu perdes de temps en temps.
L'année dernière, on pouvait au moins quoi. Ça passait bien.
Ah, oh, je vais faire classique dans ce cas-là. Je vais mettre Alonso Royal en Espagne.
Oh là, solution de facilité.
Je sais, mais...
T'aurais pu la laisser à l'invité, hein.
Ah, tu pouvais la prendre, hein.
Ouais,
je t'ai dit, c'est le choix.
C'était trop facile, pour le coup.
Et alors, à la fameuse question, enfin, on n'a pas eu la réponse, hein, mais le coup de téléphone, hein, si ça avait été le roi d'Espagne, il n'aurait pas donné le téléphone à Felipe Massa. Parce que Felipe Massa, j'ai envie de dire, il en a un peu rien à carrer du roi d'Espagne.
Je pense que le roi d'Espagne en a rien à foutre aussi.
Puis surtout, le roi d'Espagne, il aurait pas appelé sur le téléphone de Dominicali.
Non, ça devait être Dimonce Mazzamolo.
Sans
doute, oui.
Ou sinon, je pourrais changer juste la formulation de ma phrase.
Si j'aurais plutôt pensé, un an après, William s'est retombé au fond du trou.
Ça ferait l'écho à 2011.
Donc cette semaine, quel est selon vous le fait marquant du Grand Prix d'Espagne 2013? Vous aurez le choix entre Alonso Royal en Espagne, ou bien un an après, William s'est retombé au fond du trou, ou bien une première ligne Mercedes qui tourne encore en autre boudin. Dino va passer au concours?
Ouais, le concours.
Le service après-vente de la F1 vous présente le concours Top Position. Franchement, si vous avez compris les règles, vous êtes déjà un champion.
Alors, je te dis, quelle était la question concours du Grand Prix, je sais même plus quel Grand Prix c'était. C'était on l'a posé au Bahreïn, mais c'est le Grand Prix d'Espagne.
Oui. Alors déjà, je voudrais dire un petit mot, hein. C'est que, c'est pour dire que, ça y est, les cadeaux arrivent. Parce qu'on a reçu un mail de Steve qui nous a confirmé qu'il avait bien reçu son cadeau et tout ça. Parce que c'est vrai qu'il faut dire que sur les premières semaines des cadeaux, alors c'est pas notre faute parce que nous on passe les commandes très vite en fait, dès qu'on reçoit les coordonnées on envoie les commandes. Non, le problème c'est qu'il y a une espèce de point commun entre toutes les écuries de F1. Hein. Outre le fait qu'elles ont beaucoup de mal avec les pneus, elles ont aussi beaucoup de mal à envoyer les colis.
Ouais.
Voilà.
Hein. Et leur pesait leur gueule nous.
Mmh. Faut saluer Steph Corr parce que c'est lui qui s'occupe des cadeaux, hein. Je sais qu'il a envoyé plein de mails, il a même téléphoné, hein. Et je vous rappelle que c'est des services qui sont pas en France, hein, pour faire en sorte que vous receviez vos cadeaux, hein. Mais ils arrivent, hein. Vous recevez vos cadeaux, vous inquiétez pas. Et donc cette semaine, la question c'était de savoir combien de fois, hein, le champion du monde avait gagné le Grand Prix de France l'année de son titre. Et encore une fois, on a reçu un paquet de réponses.
Combien?
8. Mais il y a des mauvaises réponses.
Ah, chouette.
Alors, suivez bien. Donc, les pilotes champions du monde qui ont gagné le Grand Prix de France l'année de leur titre. On a Schumacher, qui a gagné 5 fois le Grand Prix de France l'année de ses titres. En 94, 95, 2001, 2002, 2004. On a Fangio, 3 fois en 51, même s'ils étaient 2 sur la première place. En 54 et en 57. Brabham en 60 et 66. Clark en 63 et 65. Stewart en 69 et 71, Loda en 75 et 84, Prost en 89 et 93, Ascari en 52, Hawthorn en 58, Rindt en 70, Hunt en 76, Andretti en 78, Jones en 80, Mansell en 92, Hill en 96, Alonso en 2005 et Raikkonen en 2007. Est-ce que vous avez compté?
Non.
C'est pas grave. Puisque la réponse qu'on attendait, c'était 28 fois.
Ah oui, quand même.
Oui.
Et donc, combien de personnes ont bien répondu, Shinji?
Alors, en bien tout, ça fait 6. Puisque, je ne dirai pas son nom, l'une des réponses a donné 26. Alors, parce qu'il a oublié la première de Fangio, sans doute, peut-être, c'est pas, mais par le fait que, justement, c'était une victoire où ils étaient deux.
Oui.
Mais alors, plus étonnamment, parce qu'il faut savoir que dans les réponses, beaucoup ont indiqué vraiment la liste.
Oui.
Ils n'ont demandé que le chiffre, hein, mais ils ont indiqué la liste. Et je sais pas pourquoi, il a oublié Nigel Mansell.
La moustache.
Voilà. Et l'autre qui est pas correct... Alors, je lui ai donné ça. J'ai indiqué la réponse qu'il a donnée. Le nombre de champions est celui à qui cela est arrivé est 18. Cependant, certains champions ont réédité l'exploit plusieurs fois, ce qui porte le nombre à 29. La question portant sur le nombre de champions et non sur le nombre de fois où cela s'est produit, je retiendrai donc 18. C'est-à-dire que non seulement il a pris la question à l'envers, mais en plus, même le chiffre qu'il indique dans sa réponse, qu'à la limite, on aurait pu être gentil en disant « Oui, mais au moins tu l'as cité et tout ça », bah il est pas bon. Et tu sais où est-ce qu'il a trouvé son 29e?
Non.
C'est qu'il a pas fait attention et qu'en 2003, c'est Ralf Schumacher qui a gagné le Grand Prix de France.
Ah, oh, le pauvre.
Ah, ça c'est vraiment moche.
C'est moche, hein.
Mais bon, il fallait être précis, hein. Et c'était quoi déjà la question? Rappelle-moi bien les termes de la question, s'il te plaît, Shinji.
Combien de champions du monde ont remporté le Grand Prix de France l'année de leur sacre?
D'accord. C'est vrai que ça aurait pu être aussi pris en la question que combien de champions du monde. Donc c'est même s'il le répète, ça fait quand même qu'un champion du monde. Mais après, ça peut être aussi combien de champions du monde si on part du principe que un champion du monde, c'est un champion du monde une année. Donc moi, je personnellement, s'il y avait eu la question, j'aurais accepté les deux versions.
J'avais aussi cité combien de fois le vainqueur du Grand Prix de France a été champion du monde l'année de son sacre.
Oui. Et bon, c'est juste pour dire que personnellement, moi, j'aurais accepté les deux types de réponses.
Fredino ?
Oui, je suis prêt.
Depuis 1950 et sans compter 2013, quel moteur a remporté le plus de fois le Grand Prix de Monaco ?
Ouais. Ça ressemble trop à la précédente question.
Ensuite, qui dit Grand Prix d'Espagne 2012 dit première victoire de Pastor Maldonado. Et c'est en 2012 qu'il a réalisé ses 5 meilleures performances en course, la 6e étant en 2011. Ces 5 meilleures performances ont logiquement été réalisées dans des villes différentes. Quelles sont donc les ou la lettre commune aux différentes villes où Maldonado a réalisé ses 5 meilleures positions à l'arrivée d'un Grand Prix?
Toi, je t'aime bien. Toi, je t'adore, question. Attention.
Truc bien tordu, ça.
Il va falloir du lourd derrière.
Troisième question. Selon Via Michelin, combien de tours du circuit de Barcelone Fernando Alonso devra-t-il faire pour effectuer la distance entre le circuit de Barcelone et le circuit privé de Ferrari? Alors on peut arrondir au dixième après la virgule ou même à l'unité. Hein.
Ouais, ça va être chiant à expliquer.
Quatrième question. En Formule 1, combien de fois le vainqueur du Grand Prix de Monaco est-il parti de la pole position?
Ouais, ça me semble simple.
Suite à la victoire de Ferrari sur les terres du Grand Prix espagnol cette année, après le Grand Prix d'Espagne. Eh bien d'accord. Combien de points ont été réalisés par l'alliance du moteur Ferrari et d'un pilote espagnol? En tout, hein. En tout, hein. Pas simplement au Grand Prix d'Espagne. En globalité, combien de points ça a rapporté un pilote espagnol avec un moteur Ferrari?
Ouais. J'ai toujours pas la question.
Et enfin, une petite devinette. Ma première victoire fut au Portugal. J'ai eu, entre autres, comme coéquipier, Mika Hakkinen et Damon Hill. J'ai remporté plusieurs fois le Grand Prix de Monaco. Qui suis-je? Alors, c'est pas moi, hein, c'est quelqu'un d'autre.
Non, je reste sur la deuxième, qui fait bien marrer. Et surtout que le cadeau, ça c'est quelqu'un qui a été voir la liste des cadeaux et qui a vu que le cadeau qui est arrivé pour Monaco était un très beau cadeau. Et il s'est dit, il faut trouver une très grosse question bien difficile. Donc, je vais prendre la question sur les performances de Maldonado.
Eh bien, bravo Quentin!
Bravo Quentin.
Quentin le vicieux, parce que ça c'est une question de vicieux.
Et pas qu'un peu.
Donc Quentin, tu as gagné une belle casquette Ferrari 2013, qui arrivera peut-être quand Alonso sera champion.
Peut-être.
Ou pas.
Mais sachez-le, même si ça s'y arrive dans 6 mois, Stefco aura tout fait pour que tu la reçois.
Oui, voilà. Et merci à Stefco de tout faire pour que tu la reçois.
Donc, on peut saluer Thibaut qui nous avait envoyé la question. Donc, depuis 1950 et sans compter 2013, quel moteur a remporté le plus de fois le Grand Prix de Monaco?
Mercedes.
Ah non.
Ferrari.
Ah non.
Renault.
Ah non.
Honda.
Putain, vous le faites exprès ou quoi?
Ah bah non.
Cosworth avec 13 victoires. Donc en 68 et 69, Hill sur Lotus.
Ouais, surtout que c'est logique.
70, Rindt. 71, 73, Stewart sur Tyrrell. 74, Peterson sur Lotus. 77, Scheckter chez Wolff. 78, Depailler chez Tyrrell. 80, Rothman chez Williams. Patrese en 82 chez Brabham. Rosberg en 83, le père, chez Williams. Senna en 93 sur McLaren et Schumacher en 94 sur Benetton. On salue Clément qui nous a posé la question sur le Via Michelin. Donc il y a 1088 km entre le circuit de Catalunya à Barcelone et le circuit de Fiorano. Donc selon le site officiel de la F1, le circuit de Catalunya fait 4,655 km. 1088 divisé par 4,655. Non, je n'ai pas mon Z3 sous la main. Ça fait 233,72, 71, 75, 3 petits points. Donc la réponse aurait été 233,7 tours.
Ouais.
Ensuite, on a la question d'Alan. En Formule 1, combien de fois le vainqueur du Grand Prix de Monaco est-il parti de la pole position? Une idée?
Je sais pas, il y a eu 60 Grands Prix. Donc,
ouais,
60. 33, 35 fois.
44.
Un peu moins. 26.
Ok.
Donc moins d'une fois sur deux finalement.
Il y a dû y avoir beaucoup d'abandon. Voilà. En fait.
Ensuite, il y a Jérémy qui donc nous posait la question sur l'alliance du moteur Ferrari et du pilote espagnol.
Ouais.
Alors, oh, la réputation
ouais,
personnelle.
Il y a Alfonso de Portago, il y a...
Tout à fait, en 56 et 57. Alors, t'as de Portago, 56, 3 points. En 57, 1 point. Puis il faut attendre 2010. Alonso, 252 points en 2010. Mais en 2010, c'est aussi Alger Sarri sur Toro Rosso, 5 points.
Ouais,
Pedro de la Rosa sur Sauber, 6 points. En 2011, Alonso, 257 points. Alger Sarri, 26 points. Donc en 2012, Alonso, 278. Et donc là, actuellement, il a 72 points, ce qui fait 900 points pile. Dont 850 points quand même pour Fernando Alonso, hein, faut quand même le dire.
Ouais, c'est vrai qu'elle aurait pu être sympa comme question.
Ouais. Enfin, on a une question de Maël qui nous faisait cette petite devinette. Donc, ma première victoire fut au Portugal. J'ai eu, entre autres, comme coéquipier Hakkinen et Hill. J'ai remporté plusieurs fois le Grand Prix de Monaco. Qui suis-je ?
Coutard, non ?
Ah ah, tu es tombé dans le piège.
Portugal,
Senna ?
C'est Senna. Là, vous vous dites, quoi ? Senna et Hakkinen ? Et oui !
Je viens de le dire.
Non, mais si, c'est ce qui est malade. Non, si, c'est Senna. Mais... On pourrait se dire, tiens, Senna et Hakkinen...
Non, même que Hakkinen lui a réussi une meilleure qualification que Senna. Et ça a tellement vexé Senna que du coup, il a arrêté de lui communiquer les informations.
Ah oui, chez McLaren.
Et oui, c'est Hakkinen qui a remplacé Michael Andretti.
Oui, oui.
En 93, non ?
Voilà. Ça n'a été que 3 Grands Prix, mais ils ont été coéquipiers.
Et donc, Shinji, pourquoi jouons-nous cette semaine, avant de rappeler la question ?
Eh bien, comme la semaine... Enfin, j'allais dire la semaine prochaine. Le prochain week-end de Grand Prix, c'est Monaco, hein. C'est quand même pas n'importe quel Grand Prix, Monaco, hein. Donc, on s'est dit qu'on fasse un... Voilà. On vous file un beau cadeau, hein.
Ouais.
Et qui dit Monaco, dit... Si on doit dire une équipe à Monaco...
Lotus, McLaren.
McLaren.
Bon, si on doit dire deux équipes à Monaco. Et si on dit McLaren, on dit...
Honda.
Non.
Oui, non. Non. Plus récent.
Très très récent.
Oui.
Genre même actuel. Hein.
Genre Perez, Button.
Button, bravo. Button, ancien vainqueur de...
À Monaco, mais pas chez McLaren.
En 2009.
Non, c'est bizarre. Il l'a gagné à pied.
Oui. Avec son petit sprint à la fin de la course.
Et voilà, comme on avait envie de vous offrir un beau truc, un joli truc, eh bien pour ce Grand Prix de Monaco, pour ce concours top à position, on vous offre un casque réplica. Alors, à l'échelle 1,5.
Oui.
On fait un beau cadeau. On n'est pas non plus, hein, on n'est pas milliardaire. Donc, c'est une réplique à l'échelle 1,5 du casque de Jenson Button.
Et donc, pour remporter ce casque, Shinji, on a 15 jours et il faut répondre à la question.
Oui. Cette belle question que tu as choisie.
Oui, hein. Elle est belle.
Donc, Maldonado a fait ses 5 meilleures performances en 2012. Quelles sont les ou la lettre commune aux différentes villes où Maldonado a réalisé ses 5 meilleures positions à l'arrivée d'un Grand Prix ? Vous savez déjà qu'elles sont toutes en 2012.
Et pour répondre, c'est sur l'adresse, alors là j'insiste beaucoup, c'est sur l'adresse concours@savf1.fr pour répondre, mais aussi pour apporter des modifications à votre réponse ou à votre question ou quoi que ce soit.
Oui, pour toute modification, parce qu'on a eu tout, enfin on a eu tout, parce qu'on a eu en effet une réponse qui avait sur contact. Donc on a envoyé un mail en disant « Ah, désolé, t'es obligé, faut que tu changes ta question et que tu la renvoies bien sur concours@savf1.fr ».
Voilà, c'est-à-dire que moi j'avais pas vu la réponse, bon ça n'a pas été grave en soi, mais j'avais vu la question, donc forcément j'ai renvoyé un mail en disant voilà, j'ai vu ta question, automatiquement si t'as bien répondu, bah si tu renvoies pas de question, dans ces cas-là, la bonne réponse
oui, voilà.
Elle existe quand même, mais vous pouvez pas vous disputer pour le cadeau, vous gagnez juste un
ticket au
tirage au sort pour le casque Alain Prost, mais sinon faut essayer dans ces cas-là d'être vigilant et de bien envoyer sur concours@savf1.fr.
Pareil, parce que j'ai eu une petite modification sur une question, c'est la question sur les points, c'est-à-dire que c'est Jérémy qui m'a envoyé la question avant le Grand Prix d'Espagne, et en fait il a modifié la question pour rajouter entre guillemets les points du Grand Prix d'Espagne, parce que j'avais parlé de modification au cas où si vous voulez modifier votre réponse, mais non, c'est pareil, si vous voulez modifier votre question, c'est aussi possible. Dans ce cas-là, on prend la dernière envoyée, bien évidemment.
Et donc on vous rappelle hein, que tous les participants qui ont bien répondu cette semaine, mais qui n'ont pas été sélectionnés pour la casquette de Ferrari,
oui.
tu pourras écrire si tu veux, Quentin, Fernando Alonso dessus. Si t'es fan de Massa, tu pourras mettre Massa. Si t'es fan de Vettel, tu pourras mettre Vettel aussi. C'est ton choix. Tous les autres, vous avez gagné un ticket pour le grand tirage au sort de fin d'année pour remporter un casque d'une valeur de 500 €, une réplique du casque de Alain Prost, avec le petit Sonic sur le dessus du casque, le casque de 93, son dernier sacre en Formule 1, le quatrième, le dernier sacre d'un Français, dont on fêtera le triste 20e anniversaire.
Et lui, il est à l'échelle 1.
Oui, voilà.
On vous rappelle, donc la semaine prochaine, comme d'habitude, il y aura un mag, et que vous pouvez nous poser des questions au répondeur. Si vous voulez nous poser des questions, il y a le module audio sur le site savf1.fr, ou bien par écrit sur l'adresse mail répondeur@savf1.fr. Si vous souhaitez participer à une de nos émissions d'après-course, est-ce qu'on a de la place, Dino?
J'ai pas le planning en tête, mais n'hésitez pas à nous contacter, on trouvera forcément de la place à un moment donné ou à un autre.
Donc l'adresse, c'est contact@savf1.fr.
Et vous, chers amis du Canada, on arrive bientôt au Canada, ce sera un grand prix en plus très intéressant, puisqu'il y aura le changement des pneus Pirelli. Donc si vous venez du Canada, n'hésitez pas à vous inscrire pour l'émission du Canada. Nous, on aimerait bien recevoir quelqu'un du Canada dans l'émission. Donc voilà, inscrivez-vous. Ça, c'est sûr, l'émission du Canada, il y a personne dessus. Donc inscrivez-vous, soyez là.
Alors messieurs, c'est dans 2 semaines. J'arrive pas à me faire l'idée que c'est dans 2 semaines. J'ai toujours l'impression que c'est dans 3 semaines. Non, c'est dans 2 semaines, Monaco.
Alors que moi d'habitude c'est plutôt une semaine. C'est les dernières années, il y avait qu'une semaine entre les deux Grands Prix.
Ouais. On veut savoir, le calendrier mal foutu.
Alors qui pour triompher dans les rues monégasques?
Grosjean.
Voilà, j'allais dire Romain Grosjean. Ouais.
Moi j'irais une Mercedes.
Mais laquelle?
Bah écoute, Rosberg, parce qu'au final c'est quand même lui qui est le plus rapide en qualif. Et là pour le coup, si part en pôle, vu les caractéristiques de Monaco, ça peut le faire. Vraiment.
Bon, sinon tout le monde sait que ça va être soit Vettel, soit Alonso, mais c'est pas grave.
Sans doute, mais...
ou Raikkonen. Mais bon.
Ah, pour l'instant, il n'y a eu que les 3 vainqueurs là, quand tu vois.
Oui. Ah bah la logique voudrait que Raikkonen gagne une deuxième fois.
Ah si ça se passe comme ça, oh ça serait magnifique.
D'ailleurs je me rappelle plus la statistique qui dit vainqueur en Espagne, champion bout d'année, c'est ça, non?
Une chance sur deux.
Une chance sur deux. Donc ça va jouer entre
Kimi et Fernando.
En rappelant que l'an dernier, Vettel a été champion sans gagner l'une de ces deux courses. Donc tout est ouvert.
Imagine que Raikkonen gagne, il repassera automatiquement en tête du championnat du monde. Quoi qu'il arrive.
Oui.
Dino, on va passer à notre petit défi.
Oui.
Antoine, peux-tu nous dire qu'est-ce qu'on peut faire avec 40 euros?
On peut manger un plat à Monaco, peut-être.
Oui. J'ai préparé cette rubrique, j'espère.
Non, tu m'en as pas parlé.
Mais t'écoutes pas le SAV, alors?
Des fois où je n'écoute pas tout, je l'avoue.
C'est pas juste. Si vous comptez que je vous explique tout dans les mails sans écouter, ça va pas le faire.
Non, mais la dernière fois, il me semble que j'ai entendu ça, mais j'ai dû l'écouter d'une oreille.
Ben voilà. Donc écoute, soit tu te démerdes pour nous trouver vite fait 7 trucs à faire pour 40 euros à Monaco,
Non, bah vas-y. Alors, donc première chose qu'on peut faire, c'est par exemple donc aller boire un verre à un des fameux bars de Monaco. Par exemple, boire un Monaco.
Oui, boire un Monaco à Monaco. J'ai même envie de dire, ça n'a pas de prix. Donc on peut le considérer comme gratuit.
On pourrait par exemple prendre le bus pour faire un tour du circuit de Monaco.
Oui.
Également, pourquoi ne pas visiter... Ça fera couper le montage.
Non, c'est bien. Nous, on aime bien les gens qui s'invitent dans l'émission.
Sinon, on pourrait, par exemple, aller acheter un guide de la F1 au bureau de tabac sur le circuit de Monaco.
C'est pas con. Surtout que là, ça fait pas mal de temps, donc il doit être pas très cher.
Oui. On peut acheter un appareil photo jetable pour prendre des photos de la course.
Oui. Bon, ça n'inclut pas le prix du développement, mais why not?
Peut-être louer une petite barque. Ça dépend de la taille de la barque. Moi, je prends les idées à côté de moi. Hein.
Louer une barque, c'est bien. Moi, je dis louer une barque à Monaco pour voir le Grand Prix, c'est inutile.
Surtout avec tous les gros bateaux qu'il y a.
Voilà, bah, ça fait rire. Donc ça en fait 6, ça se croit. Donc il en manque un.
Et pourquoi pas acheter une carte postale pour l'envoyer.
Un gros tricheur.
Une carte postale pour l'envoyer donc à tous ses amis pour 40 €. On peut en envoyer peut-être une dizaine à mon avis.
Oui, là c'est une version spéciale, c'est chaque truc vaut 40 €. Allez, on va accepter tout. C'était bien 7 bons trucs.
Oui.
Monaco vaut bien 7 abonnements à Canal Plus.
Facile, oui. Voilà.
Enfin, 7 mois d'abonnement, on va dire.
Ouais. Allez, on arrive à la fin de cette émission. On vous rappelle, comme d'habitude, que le SAV de la F1, c'est sur iTunes, c'est sur Pod Radio, sur la chaîne Alpha, sur Podcast France, sur le groupe Facebook du SAV de la F1, sur les comptes Twitter, quand ils sont pas suspendus. Ça t'apprendra à faire des doublons avec les trucs de fan F1. Vous pouvez les retrouver sur le site savf1.fr, sinon il y a le hashtag savf1. Et n'oubliez pas, la F1 sur internet, c'est sur
fanf1.com, bien sûr.
Oui, parce que le SAV de la F1, c'est
en couleur.
Oui, c'est gratuit aussi. Et c'est le Ritz des podcasts quand même, hein. Juste avant
oui,
Monaco,
c'est
quand même, hein. Là, pour le coup, c'est de circonstance.
Oui.
Merci Antoine de nous avoir réunis cette semaine.
Eh bien, merci à vous de m'avoir accueilli.
Oui, et puis d'avoir supporté des conditions d'enregistrement pas toujours faciles.
J'ai déjà vu bien pire.
Je fais une petite note, hein. Rappelons que vous n'êtes pas obligé de vous appeler Antoine, hein, pour être invité au SAV de la F1. Je sais que bon, là, en ce moment, il y a une espèce de conjonction, mais non, c'est juste un euro hasard.
Vous pouvez aussi vous appeler Thibaut, Julien, Jacques, Romain, Jules, Jean-Éric, même Jean-Éric. Charles, Alain, Jean, Jacques, Margot, ça c'est le grand projet de Ben. Et vous pouvez aussi vous appeler Maurice, Hervé, Janine, Robert,
James.
C'est bien de penser à l'équipe technique de Lotus.
Surtout Janine. Ou James. Ah bah, alors James Allison, s'il veut venir, il vient. On lui propose un contrat en or, mais virtuel. Mais en or, mais virtuel.
Allez, on vous souhaite à tous une bonne semaine.
De bonnes fêtes de Noël. Pensons aux gens qui seront sur ce podcast dans quelques mois. Il faut leur souhaiter de bonnes fêtes de Noël. Donc, joyeux Noël à vous et bonne année.
Non mais voilà, si vous êtes lassé de pétitions ridicules entre personnes de nationalités différentes, hein, n'oubliez pas, cette semaine, il n'y a pas la F1, mais il y a l'Eurovision.
Ah ouais, merde.
Mais par contre, ça fait un mois bon bruit.
Oui.
Et comme d'habitude, on va se quitter sur les quelques mots de poésie de Dido.
Ah ouais, merde.
T'y as pas pensé.
Oui, non, c'est bon. Voyons. J'ai deux proverbes. Ce sont deux proverbes espagnols. Hein. C'est ma marotte cette année, c'est de trouver les proverbes du pays. Bon, le proverbe espagnol, il n'y a pas trop de mal. Ça va être bien adapté aux décisions prises aujourd'hui par Pirelli, enfin hier, pour vous qui nous écoutez mercredi. Et la citation du jour, le poème qui va conclure cette émission, est le suivant. Quand le bœuf veut parler, il beugle. And it's lights out.